شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم. Comme chaque soir, et nous avons déjà commencé le dars passé qui parlait des monstres. Maintenant, on fait une petite révision sur les monstres pour entrer dans les logis, et ensuite l'istihada, qu'on appelle aussi la veine saignante, qu'on appelle la métrorragie. On avait dit que al-haydada, on avait dit que yani, il n'avait pas un âge très très précis. Yani, il peut venir à 7 ans, 8 ans, il n'a pas un âge en ce qui concerne le minimum, il n'a pas un âge. En ce qui concerne le maximum, yani, pour une femme, pour qu'elle soit pubère, 15 ans c'est le maximum, même si elle n'a pas les menstrues. À 15 ans, toute fille est devenue pubère, même si elle n'a pas encore eu ses menstrues. Ensuite, on avait dit que, on avait parlé de la couleur. Ensuite, on avait dit que il avait quatre signes. Sa couleur noire, sa mauvaise odeur. Ensuite, il est gras, il n'est pas fin. Ensuite, il ne se coagule pas. Alors que la veine saignante, istihada, c'est rouge au lieu de noir, c'est fin au lieu de gras, ça n'a pas d'odeur et ça se coagule. Ça se coagule. Ensuite, j'ai dit que s'il y a quelque chose, par exemple une femme, par exemple, a terminé ses menstrues. La femme, elle est toujours révision. Hein. La femme, il y a deux sortes de femmes. Quand une femme termine ses menstrues, il y a deux sortes de femmes. Il y a celle qui voit toujours un liquide blanc qui s'appelle qassa en arabe, qassa al-bayda. Comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala, elle a dit ce liquide est blanc comme de l'argent. Comme l'argent. On a l'or et on a l'argent. Il y a des femmes qui ont ce liquide blanc, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Celles qui ont le liquide blanc, aucune femme n'a le droit de se baser sur le fait qu'elle soit sèche. Et elle dit, là, s'il n'y a pas de sang, c'est sec, donc je vais le laver et je vais commencer la prière. Elle n'a pas le droit. Elle est toujours dans les règles. Pourquoi? Parce que le liquide blanc, elle ne l'a pas encore vu. C'est une nécessité. Elle doit attendre le liquide blanc. Celle-là, si c'est le genre qui a le liquide blanc. Maintenant, si c'est le genre qui n'a pas le liquide blanc, elle se base seulement sur le fait que l'endroit est sec. Elle sait que quand l'endroit est sec, classe. Maintenant, qu'elle soit du premier genre ou du deuxième genre, si classe, elle est sec et que c'est pas le genre qui a le liquide blanc, ou bien si elle a vu le liquide blanc, elle est de la deuxième sorte, après avoir vu le liquide blanc, si elle voit après une heure ou là, après un jour un liquide jaune ou là, un liquide marron, ça ne veut pas dire que ce sont les règles aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas tenir compte de cela. Il y a une sofra ou kodra qui sera après le liquide blanc, qui est le vrai délil, le vrai signe de la purification. On ne doit pas lui tenir compte. La même chose pour le liquide jaune et le liquide marron qui vient avant les règles. Si une femme sait par exemple le dixième de chaque mois, le dixième jour de chaque mois, elle a ses règles. Ensuite, le quatrième jour du mois, elle a vu ce liquide jaune-là. Ça ne veut pas dire que les règles ont commencé ici. Non. Elle attend que les règles viennent le dixième jour comme d'habitude. Donc, le jaune, la couleur jaune ou bien marron qui vient après les règles, après la purification, après le liquide blanc, ce n'est pas des règles. Et le liquide jaune et marron qui vient avant les règles ne rentre pas aussi dans les règles. sauf dans un cas, quel cas, pour ce qui est de ce qui vient avant, sauf les ulama ont dit, sauf dans un cas où ce liquide, yani, qui est jaune ou un peu marron, est immédiatement suivi des règles. Naam, parce que les règles, des fois, ça se perturbe. Des fois, son habitude, c'est le dixième jour, mais il est possible que ce mois, elles vont venir le deuxième jour du mois. Donc, qu'est-ce qu'elle attend? Si elle voit le jaune, elle attend un peu. Si les règles suivent ce liquide, d'accord. Mais si elles ne le suivent pas, il y a une coupure. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend jusqu'à ce que viennent les règles. Inch'Allah, si ce n'est pas compris, vous posez ensuite après les questions. Ensuite, j'ai dit que une femme, c'est perte blanche. Un liquide blanc, c'est perte blanche. J'ai dit aussi qu'une femme qui... Est-ce que j'allais dire, pardon? Non. Une femme, par exemple, classe, elle a vu le sang. Elle a reconnu le sang des règles. Par exemple, le sang noir avec l'odeur, elle a reconnu. Ensuite, ça s'est arrêté, il n'y a rien. Un jour ou là, il n'y a rien. Ensuite, il est revenu. Ensuite, peut-être, il n'y a rien. Ensuite, il est revenu. Elle le reconnaît, elle sait que c'est lui. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je suis en période de règles. Le fait qu'elle ait vu le sang, classe, elle l'a reconnu la première fois, elle est en règle, même s'il n'y a pas de sang. Non, même s'il n'y a pas de sang, elle est en règle. Parce que les règles, c'est pas seulement le sang qui doit rester, mais c'est le sang qui a commencé à couler. Dès qu'il commence à couler, et on sait, on le reconnaît par l'un des quatre signes, ça veut dire une femme est dans les règles, même s'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang qui coule, elle est dans les règles. Ensuite, j'avais dit aussi que... Non. J'avais dit qu'une femme pouvait, c'est rare, mais elle pouvait yani, avoir les règles deux fois par mois. On a cité la femme qui a eu les règles trois fois par mois. Un seul mois, elle les a eu trois fois. Donc, si une femme se purifie, là, si elle boit le liquide blanc, elle a les pertes blanches, elle se purifie. J'ai dit tout à l'heure que si elle boit quelque chose de marron là, ça n'a rien à voir. Mais si 4 jours après ou les 5 jours, elle revoit le liquide, le sang noir avec l'odeur, ça veut dire que c'est peut-être d'autres règles qui vont venir. C'est possible. Pourquoi? Elle est malade ou elle s'est déréglée ou là, elle attend qu'elle se purifie. Donc c'est possible qu'une femme ait deux fois les règles dans un même mois et on a cité une femme qui les a eues trois fois en un même mois. On a dit aussi que en général, la femme qui est enceinte n'a pas de règles. En général, mais il y a toujours exception à la règle et on a connu beaucoup de femmes qui étaient enceintes et qui en même temps ont eu les règles. C'est certes, et ça se trouve pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a des centaines ou des milliers dans le monde. Là. Je dis des milliers par rapport à un milliard ou là, c'est pas beaucoup bien sûr, mais il y en a. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, un nifes, c'est-à-dire les logis. تعريفه سيكوا هو سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولادة سي لو سون كي كول من الرحم يعني دو سي بارتي ا كوز دو لاكوشمون ا كوز دو لاكوشمون مدته سي كومبيان يعني المدة تاعو كومبيان كي كيل ريست سو سون كومبيان فام دو ريستي دون لي لوجي اكثره سون ماكسيموم 40 يوما 40 جور لو ماكسيموم كون فام reste après avoir accouché sans la prière et sans le jeûne, c'est 40 jours. Le hadith Umm Salama radiallahu ta'ala anha qalat kanat al mar'a min nisa' an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama a dit les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam restaient taq'udu fi nisa' 40 layla. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam restait 40 jours. La femme, ça veut dire les femmes des prophètes alayhi wa sallam, restaient 40 jours pendant les logis. La ya'muruha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam biqada'i salat an-nifas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait jamais à une de ses femmes de rattraper sa salat ou bien les salat qu'elle n'a pas faites pendant qu'elle était fihad an-nifas, les logis. Donc wa yaqul Abu Isa al-Tirmidhi ajma' ahlu al-'ilm. Les ulama sont unanimes pour dire les ulama qui, min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les ulama des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'un, ceux qui sont venus après, ils ont ils sont tous unanimes pour dire que un mufassa tada'u salat 40 yawman, que celle qui est en période de logis ne fait pas la prière 40 jours. Illa an ta'a tuhra qabla dhalik. Sauf bien sûr si elle se purifie avant cela. Naam, il est possible qu'une femme, après avoir accouché, se purifie pendant, après 10 jours seulement, après 12 jours, après 15 jours, après 8 jours. Ça dépend des femmes, ça dépend du sang, ça dépend de sa santé, ça dépend. Donc, moi ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on est en train de parler du maximum. Le maximum, c'est 40 jours. Mais il n'y a pas le minimum. C'est-à-dire que peut-être en 3 jours ou là, elle peut se purifier. Ça dépend des femmes. Il a dit, illa antara tuhra qabla dhalik. Donc, sauf si elle se purifie avant cela, donc, au cas où elle voit qu'elle s'est purifiée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le lavage majeur et ensuite elle fait la prière. J'ajoute ici quelque chose. J'ai ajouté, illa ida sadafa haydan. Sauf si ça tombe avec des règles. Ça se rencontre avec les règles. C'est-à-dire que des fois une femme, par exemple, elle a terminé ses 40e jour. C'est 40 jours. Elle les a terminés. Normalement, là, elle doit se laver. Il n'y a pas plus de 40 jours. Maintenant, le 40e jour, le 41e, elle a les règles. Elle a les règles, elle les reconnaît. Elle sait que ce sont les règles. C'est là qu'est-ce qu'elle fait, bien sûr. Il faut qu'elle attende encore une fois que, yani, elle soit sèche des règles ensuite pour se laver. Donc, sinon, si, yani, après le 40e jour, il n'y a pas, yani, les règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit se laver et faire la salat. Autre chose, maintenant, et le Cheikh Al-Albani a dit, il a dit à Cheikh Aouisha Hafidahullah, Al-Albani lui a dit, Rahimahullah, il lui a dit, Tankusul mar'atu 40 yawman nufasa. La femme reste 40 jours dans les logis. Wa idha istamarra ad-dammu ba'da dhalika, tu'addu mustahada. Et si le sang, Cheikh Al-Albani dit cela, et si le sang coule encore après les 40 jours, elle est quoi? C'est une veine saignante, c'est une métrorragie, yani stihada. Ce n'est plus haid, ce n'est plus nifas, ce n'est plus les logis. Parce que elle a dépassé les 40e jours et le sang reste, yani coule et ne s'est pas arrêté. J'ai dit en parenthèse, sauf si c'est des menstrues. Sauf si après les 40e jours, il y a les menstrues, c'est autre chose. Maintenant, si ce n'est pas les menstrues, c'est le même sang des logis qui ne veut pas s'arrêter. Cheikh Al-Albani a dit, classe, 40e jour, il y a le hadith, elle se lève et elle se lave. Et ce n'est pas la fin qu'elle comprenne. Elle, qu'elle essaie de comprendre. Wa ida tahurat qabla al-arba'in, faqad tahurat ida ra'at qassal bayda. Et avant le 40e jour, comme j'ai dit, si elle voit le liquide blanc et part blanche, ça veut dire que elle s'est purifiée. Donc, ça, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Certains ulama, j'ai lu chez Cheikh Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, et c'est l'avis aussi de Cheikh Ibn Taymiyyah, où il est dit que, yani, c'est aussi le madhhab des Hanabila. Ils disent que elle peut rester jusqu'à 60 jours. Yani, elle peut. S'il y a le sang qui ne veut pas s'arrêter, hein, au lieu de et lire, Inch'Allah ta'ala, vous avez l'avis qui dit 40 jours c'est le maximum, et le deuxième avis qui dit non, de préférence 60 jours. Moi personnellement, yani, la chose avec laquelle j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le 40e jour. Je marche avec ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Pourquoi? C'est pas parce que Cheikh Al-Albani. Non. C'est parce que il y a un hadith. Hadith Umm Salama, qui est une femme, elle connaît mieux que les hommes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne restaient pas plus de 40 jours. Il est impossible qu'aucune des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient 13, aucune d'elles n'est restée, yani, 45 jours, 50, pourquoi aucune n'est restée? Donc moi je marche avec ce hadith plutôt qu'avec un avis que je respecte beaucoup, c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Ensuite il y a un titre, Hukmul Nufasai, Hukmul Haydi fi kulli shay. La femme qui a les logis, c'est comme une femme qui a les monstrues, yani, la même chose en toutes les choses. Il n'y a pas de différence. Une femme qui a les louchis ou là, une femme qui a les monstrues, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dit à Aïcha radiallahu ta'ala anha, radiallahu ta'ala anha fil hajj, elle a eu ses monstrues, il lui a dit, anafisti, ça veut dire tu as eu des monstrues, alors qu'il a employé le mot louchis, nifes, il a dit anafisti, ça veut dire que le mot nafisti, qui est louchis en français, s'emploie aussi pour les monstrues. C'est pour ça que les ulama ont dit, donc les louchis et les monstrues, il n'y a pas de différence. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit pour une femme qui a les monstrues ou bien une femme qui a les louchis? Qu'est-ce qui est interdit? Premièrement, salat. Il est interdit à une femme qui a les louchis ou là, qui a la robe, les monstrues, de faire la prière. Mal assist, yani, c'est désolant, mais certaines femmes ou là, certaines filles ou là, des fois elles ont honte. Elles ont honte devant leur frère ou là, devant leur père ou là, je ne sais pas devant qui. Yani, elles se lèvent. Elle est en plein monstrueux et elle fait dire la Akbar et elle fait semblant de faire la prière avec le groupe. Celle-là, c'est interdit à elle de faire des choses pareilles. Elle doit faire le repentir et dire Astaghfirullah. Il ne faut pas qu'elle fasse la prière. Si elle a honte ou là, elle trouve d'autres excuses. Elle trouve d'autres excuses, mais c'est pas en, tout en ayant les monstrueux ou la lilochi, elle dit la Akbar, elle s'incline et elle kada. Ça, elle est en train de jouer avec sa prière. Ça, c'est une chose interdite, on dit les ulama. Donc la première des choses qu'on ne fait pas, celle qui a les louchis ou celle qui a les monstrues, elle ne fait pas la salat. Et si elle l'a fait, elle veut la faire, c'est interdit. Et elle a même des péchés. Elle a même des péchés. Pourquoi? Parce que elle l'a fait sans condition. La première condition de pouvoir la faire, c'est qu'elle n'ait pas ni les louchis ni les monstrues. Elle a sauté sur la condition, elle veut la faire. Et nous,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y'a du son? Les frères ou la sœur qui n'ont pas de pointe, Je sais qu'elle va revenir, elle doit avoir un petit problème de connexion. Akhir, de pas le break ton micro. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si saut, La hawla wa la quwwata illa billah. Non, où est-ce que je me suis arrêté? Vous avez entendu quoi la dernière des choses? Je parlais de quoi? Mais qui peut me dire, je parlais de quoi? Est-ce que j'ai commencé le paragraphe? Est-ce que j'ai commencé le paragraphe? Ce qui est interdit à celle qui a les monstrueux et les louchés. Est-ce que j'ai commencé ce paragraphe? Ma yahrum ala al-ha'id wa al-nufasa. Non, pour la prière, jazakallahu khair. Donc, ce qui est interdit, c'est la prière en ayant les monstrueux. Et j'ai dit que certains, voilà, avaient honte, etc. Tout ça, c'est pas valable, c'est pas une excuse. Indallah subhanahu azza wa jal. Et, bien sûr, la femme qui a les monstrueux ne fait pas la prière et ne la rattrape pas. Sauf qui? Sauf les khawarij. Sauf les kharijites, ils ont dans leur dîme qui est faux, ils ont que la femme qui avait les monstrues doit rattraper les jours où elle n'a pas fait la prière. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Regardez les bid'ah, regardez une bid'ah comme celle-là. Premièrement, la salat, elle ne fait pas la salat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il parlait avec Fatima bint Hubeish, parce que c'est une femme qui avait beaucoup de ce qu'on appelle istihara, après on va parler. Il a dit, il lui a dit, si tu vois les monstres venir, ne fais pas la prière. Donc premièrement la salat, deuxièmement le tawaf, c'est pas comme on dit en français, quand on va omra, on va hajj, on va tourner autour de la Kaaba. Le fait de tourner autour de la Kaaba, ça s'appelle le tawaf. Bien sûr, ça a un mot en français. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous compreniez. Le tawaf, il est interdit pour une femme qui a les monstrues ou bien qui a les louchis, la circumambulation. Il est interdit à une femme de tourner, de faire la circumambulation, le tawaf, en train de tourner autour de la Kaaba, quand elle a des louchis ou bien là, les monstres. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha une fois, elle est allée faire le hajj et elle a eu ses monstres. Bien sûr, elle a pleuré, etc. Il lui a dit, هذا شيء كتبه الله على بنت آدم. Il lui a dit, yani pourquoi tu pleures? C'est des monstres. C'est une chose que Allah azzawajal a écrite sur toutes les filles de Adam. Donc, c'est pas la peine de pleurer. Ensuite, il lui a dit, افعلي ما يفعل الحاج. Fais tout ce que fait le hajj. Fais tout ce que fait le hajj. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Sauf une chose, ne la fais pas. Ne fais pas le tawaf, ne fais pas la circondulation. C'est pour ça que une femme, quand elle va à la Umra ou là, elle va au Hajj, alhamdoulillah, qu'elle ait les monstres ou qu'elle les ait pas, elle dit c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Elle fait l'ihram, hein, parce qu'elle dit Allahumma Hajja ou Allahumma Umra, même si elle a les monstres, elle peut dire cela, elle fait l'ihram. Elle fait l'ihram tout en ayant les monstres et tout en ayant les logis. Ensuite, elle fait tout. Elle fait le Safa ou le Marwa, elle peut tout faire, tout ce qu'elle veut. Elle ne peut pas faire une chose seulement, le tawaf, la circonvolution. Il faut qu'elle attende jusqu'à ce qu'elle soit purifiée pour qu'elle puisse faire cela. Mais toutes les autres choses, elle peut les faire même en ayant les monstres. Je dis, le Hajj et l'Umra, elle ne peut pas faire seulement le tawaf qui est là, la circonvolution. Il y a une chose que je voudrais dire maintenant, peut-être ça vous, on sait jamais, mais c'est quelque chose de science, il vaut mieux la connaître que de ne pas la connaître. Imaginez qu'une femme aille par exemple au Hajj. Ensuite, elle a commencé le Hajj, il lui reste seulement le tawaf. Il lui reste le tawaf pour terminer le Hajj. Et maintenant, par exemple, elle a eu les monstres. Si elle a les monstres maintenant, et elle ne fait pas le tawaf, elle ne va pas terminer le tawaf, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est plus permise, par exemple, à son mari. Elle ne peut pas enlever ses ongles, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas terminé le hajj. Il faut qu'elle fasse le tawaf là. Donc, bon, ici, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si jamais, par exemple, elle dit, là, moi je ne peux pas l'avion, par exemple, l'avion part demain, moi j'ai toujours des monstres. Donc comment je dois faire? Si jamais elle veut faire le tawaf, elle peut pas. Si jamais donc elle revient dans son pays, elle dit je vais aller, après je reviens. Si jamais elle revient dans son pays, pendant toute la période où elle restera dans son pays, il est interdit à son mari de la toucher. Non, il est interdit. Même s'il reste des années, par exemple elle vient ici, elle reste des années, elle peut pas aller au hajj. Alors elle est interdite pour son mari pendant toutes ces années. Pourquoi? Elle n'a pas fait le tawaf, parce que elle avait quoi? Elle avait les monstres. Mais là où, alhamdoulillah, Cheikh Ibn Qayyim, Cheikh Ibn Taymiyyah, même Ibn Baz, même Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhim rahmatullah jami'an, ils ont dit, surtout Cheikh Ibn Qayyim, rahmatullah, ils ont dit, maintenant, supposé qu'une femme vient, par exemple, je ne sais pas où, elle vient, par exemple, de la Chine, ou de la Russie. Autrefois, ils venaient sur le cheval, etc. C'est pas comme maintenant l'avion. Hein, une semaine, elle peut aller revenir. Il va dire ensuite, elle a les monstres. Ensuite, si on n'a plus de solution. Ou bien on lui dit, tu reviens avec Yanné et ton groupe, tu vas chez toi. Et on ne sait plus, on ne sait jamais, est-ce que tu peux revenir ou tu ne peux pas revenir. Et 90% tu ne peux pas revenir, c'est très difficile autrefois. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on lui dit tu fais la tawaf, tu fais le tawaf avec tes monstres. Pourquoi? Parce que tu es dans la darura. Et bien sûr l'islam qui dit le rahma, c'est quoi? Ces grands ulama ici, les quatre grands ulama hado, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, ont dit na'am, dans ce cas, elle peut faire le tawaf hada en étant quoi? Tout en étant avec les monstres. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Et l'islam est venu pour faire des solutions. Il n'y a pas en islam rester comme ça dans un problème sans solution. Ça n'existe pas en islam. Si on n'a pas trouvé la solution, ça veut dire que le alim n'a pas bien cherché. Si le alim a cherché, il doit trouver la solution. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala dawa'u. Alimahu min alimahu jahila min jahila. » Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Il n'y a pas un mal ou une maladie que Allah a fait descendre sans qu'il n'ait fait descendre sa guérison. » Yani que les gens le sachent, ou bien que le savent, ou bien que les gens l'ignorent. Ça, c'est la faute des gens et des ulama qui n'ont pas trouvé le remède à cette maladie. Comme le cancer, comme le sida, tout ça, ça a quoi? Ça a un remède. Mais où est le remède? Il faut chercher. Il existe. Il faut chercher. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces quatre grands ulama ont dit, cette femme-là, ou bien elle revient chez elle, et peut-être elle ne peut plus revenir au hajj. Elle sera condamnée. Elle ne peut ni laver ses cheveux, ni mettre du parfum, ni enlever ses ongles, ni être touchée par son mari. Alors comment qu'elle va vivre celle-là? Jusqu'à ce qu'elle revienne dans 10 ans, les 15 ans, les 20 ans. Ou bien on lui dit, قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَفَعَلْ لَا تَكْلِفْ إِلَّا بِمَقْدُورِ. C'est une qaïda, c'est une règle. لَا تَكْلِفْ إِلَّا بِمَقْدُورِ. Là, je ne te demande pas de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, même, il y a beaucoup de qaïda, beaucoup de règles ici dans ce genre, comme la règle qui dit, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Bon, je l'ai oublié. Il y a une règle qui dit que, elle ressemble à la tiklif illa bi maqdur. Elle dit, non. Ensuite, il y a la règle qui dit, al-amru ida daqat tasa. Il dit, si ça devient serré, ça serre, ça s'ouvre. Al-amru ida daqat tasa. Dès qu'on a des problèmes, ça serre, ça doit s'ouvrir. Il y a une solution. Puis aussi, je voulais dire qu'il y a la règle qui dit que, je la trouve pas. Khalina, après je reviens. Bon. Troisièmement, c'est interdit somme. Il est interdit à une femme qui a des règles et les menstrues de faire quoi? De faire somme. C'est-à-dire de jeûner. Il est interdit à une femme qui a des menstrues ou bien qui a des règles de, pardon, ou bien qui a des louchis de jeûner. Le hadith, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti un jour comme ça, la matinée, il a le moussalla l'Aïd, pour faire la prière du Aïd. Il est passé devant des femmes, il a dit, Ya ma'ashar nisa tasaddaqna. Oh vous les femmes, faites l'aumône, tasaddaqna. Fa inni araytukunna akthar ahlannar. J'ai vu, yani, quand je suis monté au paradis et en enfer, j'ai vu que vous étiez, yani, il y en a beaucoup de vous qui sont dans l'enfer. Ça veut dire que l'enfer, c'était vous qui le remplissez beaucoup plus que yani, les hommes. Ra'aytukunna akthar ahlannar. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Les femmes ont posé la question. Pour quelle raison on est en enfer plus que les hommes? Pour quelle raison? Qala, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, takthurna al-la'na wa takthurna al-ashir. Il a dit, vous dites beaucoup, yani la'na sallallahu ala kda, la'na sallallahu ala. Et takthurna al-ashir, c'est-à-dire que yani vous vivez avec votre époux des années et des années, il vous fait tout ce qu'il faut, etc., tout ce que vous voulez. Ensuite, dans le jour où vous dites, toi, depuis que je t'ai connu, j'ai jamais rien vu avec toi. Toi, depuis que je t'ai connu, j'ai jamais connu la belle vie. Toi, depuis que je t'ai connu, tu m'as jamais fait cela, etc., etc. Il a dit, takfurna al-ashir. Il a dit, c'est pour ça que vous serez beaucoup d'entre vous seront en enfer. Ensuite, il a dit, ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحزين من احتكنا. Il a dit, je n'ai jamais vu yani quelqu'un yani qui en même temps n'a pas beaucoup de din et n'a pas beaucoup de aql, de cerveau aussi, mais qui en même temps yani il peut yani faire pression un homme, même s'il est très très très, très intelligent. Non. Alors ici elles ont demandé, pourquoi on n'a pas beaucoup de din, pourquoi on n'a pas beaucoup de, je ne sais pas si on dit cerveau ou l'intelligence ou quelque chose comme ça. Il a dit, alaysa shahadatul mar'ati mithla nisf shahadatir rajul. Il a dit, est-ce que ce n'est pas vrai que quand on a quelque chose, par exemple pour faire témoigner, ou bien on fait témoigner un homme ou bien deux femmes à la place de l'homme. Il a dit, c'est-à-dire que ce n'est pas que le témoignage d'une femme et la moitié du témoignage de l'homme. Elles ont dit si. Bella. Ala dhalika min nuqsan aqliha. Qal ça, c'est ce qui prouve que elle est faible de yani un peu yani moralement. Qu'est-ce que ça dirait, elle est faible ici moralement? Ça dirait l'oubli. comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, tansahdahuma fatudhakkiraha fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, si jamais une oublie, l'autre lui fait rappeler. L'autre lui fait rappeler. Pourquoi? La femme, elle est enceinte, elle a les louchers, elle a les mensuels, elle les lave, elle fait cuire, elle fait repasser, elle fait kda, elle fait. C'est pas possible qu'elle puisse se rappeler toutes ces choses-là. C'est pour ça que, yani, elle oublie beaucoup. Elle oublie beaucoup. Donc c'est pour ça que, yani, le prophète alayhi salam a dit, naqisatu aql, naqisatu aql. Ensuite, on raconte que la mère du Shafi'i, la mère de l'imam Shafi'i, rahmatullah, un jour, elle devait témoigner pour une chose, je ne sais pas quoi. Ensuite, le qadi lui a dit, voilà, tu restes seul dans une chambre. Tu restes seul dans une chambre. Et il a dit à l'autre femme, toi aussi, tu restes seul dans une chambre. Elle est pour témoigner. Ensuite, lui, elle a dit pardon au juge. Elle lui a dit, pourquoi je reste seul dans une chambre? Alors que Allah Azza wa Jalla a dit, c'est basé sur le verset, où Allah Azza wa Jalla a dit que si elle oublie, l'autre l'a fait souvenir. Donc elle a dit, comment je peux être seul dans une chambre, qui peut me souvenir? Donc la deuxième femme doit rester avec moi dans la chambre. Subhanallah, regardez le fiqh, yani, comment c'est basé sur le verset, pour prouver au juge qu'il n'avait pas le droit de la mettre seule dans une chambre. Il lui a dit, il y a le verset qui dit, si elle l'oublie, il y a l'autre qui doit, une autre femme qui doit lui souvenir. Et pour la faire souvenir, il faut qu'elle soit avec moi. Pour qu'elle soit avec moi dans la chambre. Alaysa idha havat. Voilà maintenant le témoin du darf. Alaysa idha havat. Lam tasum wa lam tusalli. Est-ce que ce n'est pas que la femme, quand elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière et elle ne jeûne pas? Elles ont dit, ben là, si c'est vrai, il a dit, dalika nuqsan dinha. Donc ça, c'est une preuve que son dîme est moins. Yani moins grand ou moins haut que le dîme du rajul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire que lui, il a le hajr plus qu'elle. Non. Elle, quand elle ne fait pas la prière ici, c'est pas parce qu'elle ne veut pas la faire quand elle a les monstres. Mais c'est parce que Allah Azza wa Jalla lui a dit de ne pas la faire. Donc elle, quand elle ne la fait pas, le fait de ne pas la faire, c'est une adoration. Pour cela, en parenthèse, avec cette niya, elle peut avoir même des hasanats. Parce que, elle se dit, moi je la fais pas, c'est pas parce que je n'aime pas la prière, ma'adallah. Mais je la fais pas parce que Allah me l'a interdite. C'est pour ça que, yani, l'homme, quand il fait la prière pendant la semaine où elle fait pas, en ce sens, il est, yani, son dîme, il a beaucoup plus, yani, par exemple, si on fait des calculs, le jour du jugement dernier, on va trouver beaucoup plus de salat chez lui que chez elle. Mais elle n'a pas de ithm, elle n'a pas de péché à cause n'a pas avoir fait la prière. Parce que c'est pas elle qui n'a pas voulu la faire, c'est l'azel qui lui a dit de ne pas la faire. Donc, troisièmement, elle peut pas jeûner. Quatrièmement, il est interdit à l'homme de faire, spécialement à son époux, il est interdit à son époux de faire le rapport avec elle. De faire le rapport avec elle. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. C'est écrit dans la traduction, et il s'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal, chouïa, ça me plaît pas la traduction, c'est pas un mal, c'est autre chose. Bon, dit c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles sont pures, ça veut dire qu'elles n'ont plus de sang. Quand elles se seront purifiées, parce que premièrement elles n'ont plus de sang, deuxièmement elles doivent se laver. Alors cohabiter avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc il est interdit à un homme de faire un rapport avec sa femme quand elle a les menstrues, ou bien quand elle a quoi, ou bien quand elle a les logis. Ça, c'est d'après le verset Hada. Et aussi d'après les hadiths, an Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, c'est un hadith sahih, dans Sahih Abi Daoud, Sahih Ibn Majah, Sahih Tirmidhi, aussi Adab Zifab, Sheikh Al-Albani, c'est un hadith sahih, où il a dit an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit man ata ha'idan, quiconque fait un rapport avec une femme avec les menstrues, ou imra'atin fi duburiha, ou bien une femme, ou bien il fait un rapport avec une femme mais par derrière, pas par devant, c'est-à-dire anal, ou kahinan, ou bien il va chez le sorcier, celui qui prédit l'avenir, il va chez madame leur dame soleil, ils vont demander quand est-ce que je me marie, est-ce que je vais avoir le bac, est-ce que je vais avoir un prétendant ces jours-ci, j'ai perdu ma bague, où est-ce qu'elle est. Elles vont chez quelqu'un qui prédit l'avenir, hein, soi-disant prédit l'avenir. Donc s'il fait une de ces trois, il a dit faqad kafara bima unzila ala Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, quiconque fait un rapport avec une femme au monstre, ou bien par derrière, ou bien il va chez celui qui prédit l'avenir et il le croit en ce qu'il a dit. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, yani tellement c'est grave. Ensuite vous remarquez que les yahoud, les juifs, quand leur femme avait les menstrues, ils la chassaient de leur chambre. La femme ne dort pas avec l'homme, la juive ne dort pas avec le juif quand elle a les menstrues. Elle ne mange pas avec lui, elle ne s'assoit pas avec lui jusqu'à ce qu'elle se purifie. Et en revanche, le chrétien, quand la femme a les menstrues, il fait le rapport avec elle. Yani les juifs, yani c'est les extrêmes. Les juifs la chassent et le chrétien la rapproche au point où il fait les rapports avec elle, même quand elle a les menstrues. Et l'islam le propre, l'islam le pur, est au milieu. Il ne chasse pas la femme qui a les menstrues. La femme qui a les menstrues, Aïcha, quand elle avait les menstrues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa tête sur ses genoux et lisait le Coran. Elle avait les menstrues et lui il mettait sa tête sur ses genoux allongés et il lisait le Coran sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la beauté de l'islam comparée avec ce que font les juifs et ce que font les chrétiens et ce que font les chrétiens. Oulayadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha avait les menstrues et ils mangeaient ensemble, il faisait exprès, il cherchait l'endroit où Aïcha a mis sa bouche, où elle a bu, et il met sa bouche, yani, où elle a mangé la viande, l'os, yani, elle a pris la viande de avec sa bouche, avec ses dents, il cherche le même endroit où elle a mangé avec ses dents, et lui, il pose sa bouche au même endroit où elle a posé sa bouche, elle qui est en plein monstru, sa femme qui est en plein monstru. Regardez l'islam, le beau, masha'Allah, l'islam ta'ana, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna li nahtadiya, lawla an hadana Allah. Bon, autre chose, qu'est-ce qui est permis à l'homme quand la femme a les menstrues? Premièrement, tout est permis sauf le rapport. Tout est permis sauf le rapport. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Il a dit, on lui a demandé à nos femmes, on les montre ce qu'elles font. Il a dit faites tout ce que vous voulez sauf le rapport. C'est toute chose sauf le rapport. Deuxièmement, an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, elle a dit kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتطهر. عائشة رضي الله تعالى عنها a dit en notre temps, quand une femme avait les menstrues, le prophète صلى الله عليه وسلم nous demandait, nous aux femmes, nous demandait de mettre يعني ce qu'on appelle izar, يعني comment on dit izar, comme un voile, ou je ne sais pas comment on l'appelle en français, comme par exemple on met comme ça en bas, comme panier, le panier. Non, je crois que c'est le pan, hein. Ça s'appelle izar, ça se met comme oui c'est ça, le pan. Et comme par exemple quand on va au hajj, l'homme quand il va au hajj, qu'est-ce qu'il met? Il met en haut quelque chose sur les épaules et en bas il met ce que je veux dire moi, le izar, il le met en bas et il est là, il est sur son ventre, il l'attache ici. المهم le prophète صلى الله عليه وسلم nous demandait de mettre un panier ثم يضاجعها زوجها. Elle a dit ensuite son mari fait ce qu'il veut, ensuite son mari fait ce qu'il veut. Troisièmement, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, certaines femmes du prophète صلى الله عليه وسلم ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من حائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. Certaines femmes du prophète عليه الصلاة والسلام ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il voulait faire quelque chose avec sa femme, l'une de ses femmes qui était en menstru, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un vêtement sur ses parties intimes, un vêtement sur ses parties intimes de devant bien sûr. Ensuite il faisait ce qu'il voulait. Donc l'essentiel c'est que quand une femme est en menstru, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait le rapport, c'est-à-dire il ne faut pas que les deux choses se touchent. S'il y a quelque chose, un vêtement ou la qui empêche, ça ne fait rien. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, il ne faut pas qu'il n'y ait rien, parce que s'il n'y a rien, c'est obligé qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir ce qu'on appelle pénétration. Il va y avoir. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche. Et on ne peut pas jouer à cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce qu'on fait. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça c'est en général. C'est voilà ce qui n'est pas permis ou ce qui est permis avec l'homme, avec la femme. Maintenant, si jamais quelqu'un fait un rapport avec sa femme, je viens de dire, si elle a les monstrues, il a fait un grand péché. Si elle a les monstrues, ou bien les louchis, ou bien il a fait par derrière, il a fait un grand péché. Mais toutefois, si jamais il a fait pendant les monstrues, il y a une solution pour alléger un peu les péchés. C'est ce qu'on appelle la kafara. C'est quoi la kafara? An Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait un rapport avec sa femme qui a les monstrues doit faire l'aumône yatasaddaq bi dinar ou nasf dinar. Celui qui a fait un rapport avec sa femme avec les monstrues, il doit faire quoi? Il doit faire sortir comme aumône un dinar ou bien un demi-dinar. Un dinar, c'est 5 grammes d'or. Un dinar, c'est quoi? C'est 5 grammes d'or. Celui qui a affaire avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le bijoutier. Il lui dit, c'est combien le gramme d'or? S'il lui dit, par exemple, c'est un exemple, il lui dit 10 euros. 10 euros le gramme d'or. Donc, 5 grammes, c'est combien? 5 grammes, c'est 50. C'est 50 euros. Donc, il fait sortir 52. 50. Donc, il fait sortir ou bien 50 grammes, comme a dit le hadith, ou bien 25 grammes. Parce que le hadith, il a dit, فليتصدق بدينار دينار أو نصف دينار ou bien 50 euros ou bien 25. Bon, entre parenthèses, quand j'ai dit 50 euros là, c'est pas vrai, c'est un exemple là. L'essentiel c'est quoi? C'est un dinar, c'est à dire 5 grammes d'or ou bien 2 grammes et demi d'or. Je ne sais pas moi combien il coûte l'or, j'ai dit comme ça de ma tête. Voilà, c'est pas 50 euros, j'ai donné seulement un exemple. Maintenant, quand est-ce qu'il donne un dinar en or, quand est-ce qu'il donne un demi-dinar? Certains oulamas ont dit, d'après yani sa position, s'il a assez d'argent, il doit donner un dinar. S'il n'a pas assez d'argent, il doit donner seulement un demi-dinar. Comme ça, Abid al-Bani ont dit d'autres. Et d'autres, deuxième avis, et c'est l'avis que je préfère, Allah subhanahu wa ta'ala alam, deuxième avis, il y a un hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est un hadith qui est sahih. Quand on a un hadith, quand on a un athar, je préfère qu'on prenne avec le hadith de Abdullah ibn Abbas plutôt que de prendre un avis comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si c'est au début du sang, il donne un dinar. Si c'est à la fin du sang, il donne un demi-dinar. C'est un hadith sahih. Hadith de Abdullah ibn Abbas, bien sûr. Il dit, s'il fait le rapport en plein sang, début du sang, il donne un dinar. Si c'est à la fin, il donne un demi-dinar. Vous voyez pourquoi la différence? Quand il fait au début, yani ça fait seulement un jour ou deux jours, elle était pure. Alors pourquoi maintenant tu la touches? Ça fait seulement, tu as fait peut-être le rapport seulement hier ou avant-hier. Donc, tu dois payer. Tu payes un dinar. Mais, puisque maintenant tu l'as fait à la fin, vous savez que, yani, c'est pas facile. n'est pas facile d'aller de patienter jusqu'à la fin des 7 jours. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui ne patientent pas. Donc, ils donnent seulement un demi-dinar. Ça, c'est le deuxième avis. Mais quelque chose de très important que je voudrais dire ici, certains, avant d'oublier, avant de dire cela, ce hadith parle de quelqu'un qui fait le rapport avec sa femme, qui a les monstrueux. Il ne parle pas de celui qui fait avec la femme par derrière. Celui-là, il n'a pas de kafara. Celui-là, il a fait un péché grave. Yani, il fait le repentir, etc. C'est pas la peine de donner un dinar ou bien un demi-dinar. Le dinar en or et le demi-dinar seulement pour les monstrueux. Maintenant, autre chose. Certains croient que, puisque le hadith a dit comme ça, il a dit si tu fais un rapport avec les monstrueux, tu donnes un dinar ou bien un demi-dinar, il va dire quoi? Alors, alhamdoulilah. Ça y est, j'ai une solution. Il dit à sa femme, tu as les monstrueux, pas de problème. On fait après, Inch'Allah ta'ala, on fait sortir un dinar. Il y a même des femmes qui disent comme ça à leur mari. Pas de problème, puisqu'il y a le hadith qui dit comme ça. Ah, Inch'Allah, tu fais le rapport après, tu payes un dinar et là. Non, c'est pas comme ça. C'est interdit. Si quelqu'un était comme ça, le dinar ou le demi-dinar, il sera pas accepté. Mais si Hada, pour celui par exemple qui savait pas, ou là, pour lui, quelqu'un par exemple qui, là, c'était dans la daroura, c'est pas quelqu'un yani, qui va choisir. Parce qu'on a fait, on a dit qu'il y a un hadith qui dit, faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. C'est quelque chose de très très grave. Mais pour repentir et alléger les péchés, etc., il va faire sortir le dinar ou bien le demi-dinar. Maintenant, une femme avait les monstres. Ou là, avait les lochis. Maintenant, elle s'est purifiée. Il y a les pertes blanches, le liquide blanc qui a coulé. Il est blanc, alhamdoulilah. Ça veut dire, elle s'est purifiée. Est-ce que maintenant, il peut la toucher? Ou là, il faut qu'elle se lave? Est-ce que maintenant, il peut la toucher? Ou là, il faut qu'elle se lave? Ici, les ulama, bien sûr, ont divergé. Il y a Cheikh Shoukani, alay rahmatullah, et Cheikh Al-Albani, au début, et Cheikh Ibn Hazm, alay rahmatullah, je leur ai lu, là, ça fait 20 ans, là, 25 ans, ils disent, et Cheikh Al-Albani, alay rahmatullah, disait qu'une femme, quand elle se purifiait de ses menstrues, elle voyait qu'elle n'avait plus de sang, elle choisit entre trois choses. Ou bien elle fait le rosme, lavage majeur. Ou bien elle lave seulement ses parties intimes où il y avait le sang. Ou bien elle fait seulement les petites ablutions, wudu, et son mari peut la toucher. Ça, Cheikh Shoukani dit cela, Ibn Hazm et l'Albani. Ensuite, l'Albani, rahmatullah, quand il a grandi encore, sa dernière lahore avant de mourir, il s'est désengagé de cela. Il a dit non, je préfère marcher avec le verset. Le verset qui a dit Hatta yathorna. Le verset, il est clair. Il a dit, je le relis ici, fa'tazilu nisa fil mahid wa la taqrabuhunna. Ne vous approchez pas des femmes qui ont les menstrues. Il a dit ne vous approchez pas pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Elles sont pures, ça veut dire qu'elles n'ont plus de sang. Elles sont pures. Ensuite, il a dit, quand elles se sont purifiées, alors approchez-les. Quand elles se sont purifiées, ça veut dire qu'elles se sont lavées. Elles se sont lavées. D'ailleurs, c'est très clair en arabe. En arabe, il dit, fa'tazilu an-nisa fi al-mahid, éloignez-vous des femmes pendant la hor, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Elles n'ont plus de sang. Hatta yatahurna. Ensuite, il a dit, فَإِذَا تَطَهَرْنَا et si elle se lave فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّا cohabiter avec elle. Donc Cheikh Al-Albani à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, yani, le plus juste pour moi c'est qu'elle n'a pas le droit de faire seulement les petites ablutions ou bien de faire seulement de laver seulement yani, ses parties intimes, mais elle doit se laver. Donc quiconque fait un rapport avec sa femme quand elle a terminé ses menstrues ou laissé locher sans qu'elle se soit lavée, il a un péché et elle a un péché. Autre chose, quand le mari demande à la femme de faire un rapport en plein menstrues, elle n'a pas le droit de le laisser. Quitte à demander le divorce. parce que quand elle le laisse, ça veut dire que elle est yani sharika, elle est, comment on dit ça, yani elle est sharika, elle rentre avec lui, elle a fait avec lui, c'est-à-dire qu'elle est complice, voilà, elle est complice avec lui, parce que voilà, consentante, elle a consenti, donc elle est associée, complice, elle ne doit pas le laisser faire, quitte à yani faire venir ses parents et ses parents à elle et ses parents à eux et dire voilà, celui-là il me fait des problèmes, il me demande pendant les menstrues, ou là, il me demande par derrière, ou là, il me demande comme ça, quitte à se quitter. Voilà la vraie musulmane qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, bien sûr, si maintenant celui-là, yani, il a une barre de fer, ou là, un revolver, ou là, il veut la tuer, ou là, bien sûr, elle le laisse faire, parce qu'elle est dans la daroura, et après, juste, elle cherche la solution finale avec ses parents ou avec le tribunal. Mais elle ne le laisse pas faire, yani, recommencer cette chose. Ensuite, il y a autre chose aussi que je voulais dire, Hnaya. Non. Donc, une femme, si elle a les menstrues, ou la lilochie, il est interdit à son mari de la faucher jusqu'à ce qu'elle se purifie, c'est-à-dire se lave le lavage majeur. C'est, yani, elle est halal pour son mari qu'après le lavage. C'est à peu près comme la femme qui divorce. Une femme qui divorce, combien qu'elle doit rester? Elle doit rester 3 menstrues. Les premières menstrues se terminent, les deuxièmes se terminent. Quand les troisièmes menstrues se terminent, elle n'est pas encore divorcée jusqu'à ce qu'elle fasse le lavage. La même chose. Quand elle va se laver, après s'être purifiée des troisièmes menstrues, grâce à elle est divorcée. Tant qu'elle ne s'est pas lavée, elle n'est pas encore divorcée. Son mari peut la faire revenir sans son avis. Sans qu'elle consente. Pourquoi? Parce que tant qu'elle ne s'est pas lavée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les menstrues ne sont pas terminées, ça veut dire qu'elle est toujours dans la idda, elle est toujours dans la période de viduité. Sauf si elle fait exprès et elle veut yani, retarder le rousse. Elle veut retarder. Elle le laisse se purifier le matin, vers 4h ou 5h, je vais me laver. Maintenant, voilà pour la femme qui s'est purifiée, il faut qu'elle se lave. Il faut qu'elle se lave pour qu'il ait permis à l'homme de, à son époux, de l'approcher. Ensuite, allez, je profite, je vais terminer cela parce que je laisse istihada, je laisse la 21e hadith, je la laisse pour la prochaine fois. Et je profite, je vais terminer, même s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas beaucoup de questions, mais ce n'est pas seulement des questions. C'est qu'on apprenne le ilm. D'ailleurs, c'est seulement une page. Il y a des choses qui ont rapport avec le lavage de celles qui viennent se purifier des menstrues et le lavage de celles qui viennent se purifier des logis. نقبل المرأة شعرها عند غسل المحيض. نعم. La femme, quand elle a les menstrues et elle va faire le lavage majeur, quand elle commence à se laver, elle doit ouvrir, yani, al-dafa'ir. Si elle a les cheveux, tressés, je crois qu'on dit tressés, si elle a des cheveux, elle a des nattes, elle doit les ouvrir afin que l'eau rentre, yani, touche chaque cheveu. Et non, la tresse, voilà. Et non, dans la janaba. Par contre, quand elle a la janaba, elle n'est pas obligée d'ouvrir les tresses. Elle n'est pas obligée de les ouvrir quand elle a la janaba. Mais elle est obligée de les ouvrir quand elle a les menstrues, elle s'est purifiée. La différence, vous devez, inshallah ta'ala, vous l'avez sûrement comprise la différence, parce que la janaba, ça se fait souvent. Peut-être tous les soirs, peut-être tous les 2 jours, peut-être tous les 3 jours. Si à chaque fois on disait à une femme, elle tresse, ensuite on lève les tresses pour cela, et ensuite elle fait les tresses, ensuite on lève les tresses, c'est très difficile. Et l'islam, il est venu pour faciliter les choses. Mais le haïd, ça vient seulement une fois par mois. Donc une fois par mois, elle enlève les tresses pour laver ses cheveux, ce n'est pas difficile, ce n'est pas grave. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment il y a la hikma et la sagesse. La janaba, ça se renouvelle beaucoup. Donc, c'est pas la peine à chaque fois, elle enlève les tresses. Mais, là, les menstrues, c'est seulement une fois par mois. Donc, elle est obligée, pendant les menstrues, d'ouvrir les tresses. ثانيا استحباب استعمال المغتسلة من حيث فيصل من مسك موضع الدم. Il est conseillé à la femme qui se lave le lavage des menstrues, il est conseillé quand elle termine le lavage, et le lavage, on l'a expliqué avec détail comment elle fait. Donc c'est pas la peine d'y revenir. Quand elle termine le lavage des menstrues, il est conseillé qu'elle mette un morceau de coton avec du ce qu'on appelle mist, ce qu'on appelle du parfum ou quelque chose comme ça, qui a une bonne odeur, et qu'elle le mette à l'intérieur. Les ulama ont dit pourquoi? Parce que pour enlever l'odeur qu'il y avait, et c'est une sunna, comme dans le hadith que je vais lire. An Aisha radiallahu ta'ala anha sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, une femme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait tightasil min haydatiha, elle lui a demandé comment je me lave quand je me purifie des menstrues. كيف تختص من حيضتها فذكرت أنه علمها elle a dit qu'il lui avait appris comment elle se lavait. Ensuite le prophète a dit ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. Ensuite elle prend par exemple un morceau de coton là, et elle fait un peu de misc, un peu de parfum là, elle le met dans son endroit. Il a dit فتطهر بها. La femme n'a pas compris, elle a dit comment je me purifie avec ça, je ne comprends pas. Comment il y a un morceau de coton, je mets du parfum, je me purifie, je ne comprends pas. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle devait mettre ce parfum, de ce coton. Où est-ce qu'elle va le mettre exactement? Elle va se frotter le corps, elle n'a pas compris. Le prophète a dit, tatahari biha, subhanallah. Il a dit, purifie-toi, subhanallah, purifie-toi. Et le rapporteur a dit, le prophète sallam a s'est détourné un peu et a mis sa main sur son visage comme il avait un peu honte. Alors Aïcha radiallahu ta'ala a dit, quand elle a su que le prophète sallam a eu honte, cette femme n'est pas compris, elle a dit, ou je t'adabtuha ilayya, elle a dit, je l'ai tiré vers moi, je lui ai dit, elle a dit, car j'ai compris ce que voulait dire le prophète sallam. Elle lui a dit, alors, ce coton, tu le mets dans l'endroit où il sortit le sang. Elle lui a bien fait comprendre que où est-ce qu'il fallait mettre le coton. Et quand je dis on met du parfum, le parfum, il ne faut pas qu'il soit plus de 50% d'alcool. Sinon, ça devient de l'alcool, ce n'est plus du parfum. D'ailleurs, non seulement c'est haram, mais encore il va faire mal, parce que c'est comme si on avait mis de l'alcool. Il faut qu'il ne contienne pas beaucoup d'alcool pour que le parfum soit valable en islam. Autre chose, ici il y a un dalil que quand quelqu'un s'étonne, il dit subhanallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à la femme purifie-toi, elle n'a pas compris, il a dit subhanallah, tatahari, c'est étonnant, subhanallah. Donc il y a un dalil que quand on est étonné de quelque chose, on peut dire subhanallah. Et si Aidan, il y a aussi dans cette petite histoire, il y a aussi un dalil que il n'est pas aïb, n'est pas vilain ou la aïb qu'une femme demande à un alim, elle lui demande des choses comme ça, sur les monstres, etc. C'est pas aïb. Elle peut lui demander des choses comme celle-là. Qu'est-ce que je fais pendant les monstres, comment dois-je faire, etc. Ça, c'est pas aïb. كيف تغتسل الحائض والنفاسة؟ C'est revenu encore une fois. Comment va se laver la femme qui a les menstrues et celle qui a les louches? عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم, a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض, comment je me purifie des menstrues. قال, il a répondu صلى الله عليه وسلم, تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فقطها. Il a dit, elle prend son eau, que l'une de vous prenne de l'eau, et sidrataha. Sidrataha, j'avais une soeur, je crois que c'est Zinjabila, qui m'a dit une fois qu'est-ce que ça veut dire sidrahadi, mais j'ai oublié maintenant. Ce sont des feuilles vertes. Si on les met dans l'eau, l'eau commence à avoir une couleur verte. Ensuite, il a une odeur, assez bonne. Et cette sidra aussi, qui se trouve beaucoup dans les pays, feuilles de jujubé, barakallahu fik, feuilles de jujubé. Ces feuilles de jujubé, qui se trouve beaucoup dans les pays chauds, Il y en a beaucoup en Algérie, il y en a beaucoup ici au Koweït. C'est sûr que dans les pays froids, il n'y en a pas, parce qu'ils marchent avec la chaleur. Elles sont valables aussi, pourquoi? Pour annuler le sihr. Naam. Pour annuler le sihr, comme dit Cheikh Ibn Baz et les autres, tous les autres, ils disent que le sihr, on peut l'annuler avec quoi? Avec les feuilles du UJB. Quand on prend sept feuilles, on les casse entre deux cailloux, on les à l'intérieur et on donne à l'homme de boire ou là à la femme, surtout lorsqu'on lui fait quelque chose le jour du mariage pour qu'il ne puisse rien faire avec sa femme. On a dit là, c'est très bénéfique, les feuilles du jujubé. Alors le prophète, il a dit, tu prends l'eau, tu prends les feuilles du jujubé. Maintenant, les feuilles du jujubé, il n'y en a pas. Et il y a des choses qui sont comme les feuilles du jujubé et qui sont peut-être mieux. C'est quoi? C'est par exemple le savon, c'est par exemple le shampoing, c'est par exemple... Et toutes ces choses, alhamdoulilah, maintenant, elles sont à la place des choses qu'on a dans les feuilles du jujubé qu'on ne peut pas trouver facilement, etc. Donc, maintenant, quoi? Une femme va se laver, elle prend avec elle des choses qui nettoient, comme le savon. Il y a beaucoup d'autres choses que peut-être moi je ne connais pas, que les femmes connaissent. Ensuite, il a dit, « فَتُحْسِنَ الطَّوْرْ ثُمَّ تَصُبْ عَلَى رَأْسِهَا » Il a dit, hein, ensuite, elle commence, elle fait exactement comme on fait pour la janaba. Elle commence par se laver les parties intimes, ensuite elle lave ses mains, ensuite elle dit bismillah, et elle commence le petit wudu, les petites ablutions. Elle commence, ensuite elle ne fait pas ses pieds, elle laisse ses pieds en dernier, elle laisse ses pieds, ensuite elle monte aux cheveux, et elle commence à jeter de l'eau par-dessus la tête. Si elle a les tresses, elle doit les ouvrir, comme j'ai dit. Elle doit ouvrir ses tresses. En fait, il a dit, « Tassoubou ala ra'siha » Elle commence à jeter de l'eau sur sa tête. « Fatted l'oukou delken shadidan » Regardez, « Fatted l'oukou delken shadidan » Yani, c'est pas, elle laisse seulement l'eau tomber sur sa tête, mais elle met avec ses doigts, elle frotte. Elle frotte avec ses doigts jusqu'à ce qu'elle touche, yani elle touche sa tête. Pardon, non, elle touche, comment on appelle elle, c'est pas elle touche les cheveux. Mais elle touche l'endroit d'où poussent les cheveux. Elle touche l'endroit d'où poussent les cheveux. حَتَّ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا. Voilà ce qu'a dit le prophète. حَتَّ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا. Il faut qu'elle touche, l'endroit d'où sortent, d'où poussent les cheveux. ثُمَّ تَصُبْ عَلَيْهَا الْمَا. Ensuite, elle commence à jeter de l'eau sur elle, à droite, à gauche. Elle commence par la droite si elle veut, c'est plus conseillé. Ensuite, il a dit, ثُمَّ تَأْخُدْ فِرْسَةَ الْمُمَسَّكَة. Ensuite, elle a terminé. Elle prend un morceau de coton, elle met ce qu'on disait, ce que j'ai dit tout à l'heure pour enlever l'odeur. Ensuite, il a dit fatatahar biha. Elle le dit, elle le met dans l'endroit. Esma n'a pas compris. Elle a dit ok fatatahar biha. Comment elle va mettre? J'ai pas compris. Il a dit subhanallah, subhanallah, tataharina biha, subhanallah. Yani, mais là, subhanallah. C'est pas la fin que je dise. Ou comme ça a voulu dire le prophète. Ensuite, Aïcha lui a expliqué. Maintenant, il y a une chose, je termine avec elle. Kefa tutahiru al-ha'idu thawbaha. Quand une femme, c'est quelque chose de très important que beaucoup de femmes ne connaissent pas, quand une femme a été touchée par le sang des menstrues dans une partie du vêtement, si elle veut par exemple faire la prière avec ce vêtement, c'est sûr qu'elle doit enlever la partie où il y a eu le sang. Mais plus que cela, que les gens ne connaissent pas beaucoup, elle doit laver tout le vêtement. Naam. Le hadith sahih ici, Cheikh Al-Albani a dit ça, voilà, c'est très important et beaucoup de femmes ne connaissent pas. Ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Par exemple, les vêtements intimes, elles ont été touchées par le sang. Maintenant, la femme n'a pas de vêtements intimes, elle a seulement ce sous-vêtement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'enlève pas la partie du sang, mais elle doit laver tout le vêtement. Elle doit laver tout le vêtement. C'est pour ça que si elle a une robe qui a été touchée par le sang là, elle lave toute la robe, elle lave pas seulement la robe. Elle commence par la partie où il y a le sang. Elle insiste sur ce sang pour qu'il parte, elle le lave bien, elle les sort la partie, ensuite elle lave tout le vêtement. Elle ne doit pas se dire j'enlève seulement la partie là du sang. Comme a dit Cheikh Al-Albani, qala shaykhuna fi sahiha, Cheikh Al-Albani a dit silsila sahiha, numéro 299. في هذه الرواية زيادة ثم أنضحه في سائره ثم أنضحه في سائره وهي زيادة الهمة. Il a dit quelque chose de très important, لأنها تبين أن قوله ثم لتنضحنه ليس المراد نضح مكان الدم بل الثوب كله. Il a dit, le prophète عليه السلام, lorsqu'il a dit ensuite, elle lave, il a dit, c'est pas elle lave l'endroit où il y a le sang, mais elle lave tout l'endroit, c'est-à-dire tout le vêtement. Parce qu'auparavant, il a dit, elle doit laver l'endroit, ensuite il a dit, et ensuite elle lave le tout. Le tout, c'est-à-dire tout le vêtement qui a été touché par le sang, même s'il n'a pas été touché dans beaucoup d'autres endroits. Il a été touché seulement en bas, elle enlève le sang qui est en bas et elle lave ce vêtement. Voilà pour, il reste l'istihada, je la laisse pour la prochaine fois, inshallah ta'ala. Il reste l'istihada, c'est-à-dire, j'arrête ici, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, dans 5 minutes on reprend. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça? Édition. Bouliaz. Les sœurs, barakallahu fikum, baissez vos mains, et les frères aussi. Les sœurs qui poseront une question, posez-la à la sœur, inshallah. Si vous avez des questions, posez-la à la sœur. Et les frères, posez les questions aux frères qui ont l'admin. Posez les questions aux frères qui ont l'admin, barakallahu fikum. Il ne sert à rien de lever vos mains, inshallah. Ya Cheikh, est-ce que vous allez poser des questions, Inch'Allah, yani, aux frères et sœurs, bismillah, parce que, comme on avait dit, est-ce que vous allez poser des questions, yani, concernant le Dars, pour voir s'ils ont suivi ou là. Si c'est le cas, tapez 1, barakallahu fik, si c'est pas le cas, tapez 2.
Alaykoum salam, chauffe les questions à nous, de préférence. Elles sont à chaque début d'un cours nouveau. Quand il y a un cours nouveau, ces questions viennent comme révision. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Ces questions, c'est comme des révisions pour le nouveau cours. Enfin, c'est mieux. Et elles viendront, inshallah, dans le contrôle. Elles viendront, inshallah, ta'ala, dans le contrôle. Inshallah, ta'ala, je ne vais pas perdre de temps. On va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Tfadal, inshallah. Qaddam minna, inshallah, su'al awal. Tfadal. La lecture du Coran est-elle autorisée? Pouvons-nous toucher le Coran avec le menstru? Le rapport est un haram, le rapport est haram durant les menstrues. Mais comment pouvons-nous nous amuser avec notre femme? La fellation est-elle haram? lire le Coran, il y a deux sortes de lecture. On le lit avec le livre et on le lit sans livre. Le lire avec le livre, c'est interdit pour la femme qui a les menstrues. Lire, c'est-à-dire le toucher le livre, pour le lire, c'est interdit. Certains ulama ont dit, si elle est dans l'obligation, alors au moins qu'elle mette des gants. Si elle est dans l'obligation, il faut qu'elle ouvre le Coran pour je sais pas quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur où elle doit lire un verset, ou elle a un examen, ou là, au moins avec les gants, ou bien au moins avec un bâton, ou bien quelqu'un lui ouvre et elle lit, mais elle ne touche pas avec ses mains. Maintenant si elle va lire sans toucher le livre avec les menstrues, elle ne lit aussi que dans la daroura, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inni akrahu an adhkurallah illa ala tahr, ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je n'aime pas dhikr Allah, invoquer Allah Azza wa Jal, seulement quand je suis yani pur. Imaginez une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui a dit salamu alaykum, c'est pas comme le Coran, c'est moins grave. Il ne lui a pas répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tayammum sur le mur, il a mis frotté ses deux mains contre le mur, il s'est essuyé le visage, les mains, ensuite il lui a dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seulement, il n'avait pas des petites ablutions, il a préféré faire le taïmum pour lui dire seulement alaykoum salam. Alors de préférence, une femme, même quand elle le lit, elle ne le lit pas. Quand elle veut invoquer, sans livre, elle ne lit pas les versets, parce qu'elle a les monstres, sauf bien sûr quand elle a peur d'oublier le Coran, ou là elle est dans une halqa, ou elle est en train d'apprendre le Coran, tout ça c'est fermé. Ou là, on lui dit, yani, donnez-nous un verset qui dit cela, yani, elle doit témoigner. Elle dit le verset, ça ne fait rien quand elle a les monstres. Le rapport est haram durant les monstres, mais comment pouvons-nous nous amuser avec notre femme? On s'amuse avec, tu t'amuses avec ta femme, j'ai dit, en faisant tout sauf quoi ce mot, sauf le rapport. Ça veut dire que tu peux faire avec ta femme, ou bien elle peut faire elle avec sa main, elle peut faire elle avec sa main, ou bien toi tu peux faire yani, entre ses cuisses ou là entre ses genoux ou là je ne sais pas comment. Le mohim, tu ne fasses pas le rapport, c'est tout. C'est-à-dire la fellation est-elle haram? Je n'ai pas compris la question. Une autre question, inshallah ta'ala. Oum Abdullah a dit, une sœur dit, alaykoum salam, ukhti, la question que je veux poser est sur une pratique plus culturelle, Allah alam. Mais j'en voudrais le délil de l'interdit du fait de ne pas avoir le droit de se laver après un accouchement. C'est quoi ça, Ali? Salam alaykoum. Je voudrais le délit de l'interdit du fait de ne pas avoir le droit de se laver après un accouchement. Je ne sais pas qui lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de se laver après un accouchement. Qui a dit cela? J'espère que ce n'est pas moi, Inch'Allah Ta'ala, qui ai dit cela. Après un accouchement, quand le sang, il n'y a plus de sang, elle doit se lever. Bien au contraire, comment elle n'a pas le droit de se laver? Elle doit se laver. Si elle ne se lave pas, elle ne peut pas ni faire la salat, ni être approché par son époux. Et là, alhamdoulilah, cette question m'a rappelé une chose, masha'Allah. Cette chose, c'est quoi? C'est quand j'ai parlé la fois passée de la césarienne. J'ai parlé de la césarienne et j'ai mal interprété. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, une femme lui a dit, j'étais enceinte et le 8e mois, il y a un peu de sang qui m'a coulé. Le 8e mois. Un peu de sang a coulé. Ensuite, 14 jours après le 8e mois, j'ai subi une césarienne. On m'a fait sortir l'enfant yani, du ventre par césarienne. Est-ce que je rattrape les jours où le sang a coulé parce qu'on était en plein Ramadan? Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu à l'Ahmadullah, non, tu ne rattrapes pas. Ça veut dire yani, ton saum est sahih. Et la salat que tu as faite était sahiha. Pourquoi il a dit? Parce que ce sang qui est sorti, c'est un sang de fesed, ce n'est pas un sang de monstru ni un sang de locher. Et moi, j'ai mal interprété, j'ai dit que même si la femme, on lui fait une césarienne, yani j'ai dit même, yani s'il y a le sang qui coule, ça n'a pas d'importance. Elle peut, elle lave ce sang et elle fait la prière et elle fait. Maintenant, moi, je retire ce que je dis et on peut l'estakhir Allah wa atubu ilayhi. Mais Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a dit, une femme, quand elle subit une césarienne, on regarde. S'il y a du sang qui va couler après la césarienne, du sang qui va couler de l'endroit avec, ça veut dire, elle doit rester, elle a délogé. Mais il a dit, s'il n'y a pas de sang qui coule, elle fait la prière directement. Là, pourquoi? Parce que l'enfant est sorti du ventre et n'est pas sorti de l'endroit d'en bas. Donc je répète, quand une femme, elle a une césarienne, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, la césarienne c'est pas facile, quand une femme a une césarienne, on regarde, est-ce qu'il y a du sang qui va couler après la césarienne? Il va couler de l'endroit. S'il coule, khlas, ce sont des mochis. Elle doit rester jusqu'à ce qu'elle soit sèche, ensuite elle se lave. Mais s'il n'y a aucun sang qui coule, ça veut dire quoi? Ça veut dire, khlas, il n'y a rien. Donc elle peut faire la prière. Maintenant seulement j'ajouterai autre chose, le sang qui coule avant la césarienne, ce n'est pas un sang de lochi ni un sang de monstru. Le sang qui coule un peu avant la césarienne, celui-là la femme l'essuie et c'est pas la peine de se laver ou là, sauf comme j'ai dit s'il est continu, yani il commence à couler et s'arrête pas jusqu'à ce que yani elle accouche ou là jusqu'à parce qu'on extrait l'enfant. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Autre question, inshallah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Un frère dit, vous avez parlé de la kuffara cela est-il obligé de donner l'aumône en dinar et à qui dois-je la donner? J'ai dit, on ne donne pas l'aumône en dinar. J'ai dit, il donne un dinar ou bien un demi-dinar en or. Il donne un dinar en or ou bien un demi-dinar en or. Vous savez que le dinar maintenant en Algérie, c'est une pièce. C'est une pièce de, je ne sais pas, de fer ou là. Au Koweït, un dinar, c'est en papier. Autrefois, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un dinar, c'était une pièce, mais en or, en vrai or. Alors il a dit, tu prends un dinar, en or, tu le donnes. Maintenant, le dinar en or, il n'existe pas. Autrefois, peut-être qu'il s'appelait Louisa ou je ne sais pas quoi. Toutes les femmes avaient cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le dinar, son équivalent, c'est 5 grammes d'or. 5 grammes d'or. Certains ulama ont dit 4 grammes et chouïa. Et d'autres ont dit 5 grammes d'or. Donc tu vas chez le bijoutier, tu lui dis c'est combien 5 grammes d'or? 5 grammes d'or, c'est l'équivalent de combien? S'il te dit par exemple 5 grammes d'or, c'est 100 euros, tu donnes 100 euros. Voilà, tu demandes c'est combien 5 grammes d'or? 1000 grammes d'or, c'est environ 15 euros en France. Ah, je ne pense pas. 1000 grammes d'or, 1000 grammes d'or, c'est 1 kilo. 1000 grammes d'or, c'est 1 kilo. 1 kilo avec 15 euros. La houda wa la quwwata illa billah. Si c'est 1000 grammes d'or, si 1000 grammes d'or, yani 1 kilo d'or, c'est 15 euros. La houda wa la quwwata illa billah. 15 000. Ah, 15 000 euros. Chef, 15 000 euros. Ou tu as dit 15 euros. En akhlas, j'ai dit demain je vais acheter 500 kilos. Bah, non. Donc c'est simple. Il va chez le bijoutier, il lui dit c'est combien 5 grammes d'or et c'est sortir l'équivalent de 5 grammes d'or. S'il n'a pas assez d'argent, il fait sortir yani, combien yani, 2,5 grammes d'or. Ça va le prochain, inchallah. Est-il permis à la femme de prendre la pelouse pendant le pèlerinage pour éviter que la pelouse de Mansour tombe au même moment d'accomplir le tawaf? Oui, il est permis. Il est permis, comme il est permis aussi à la femme de prendre la pilule pour faire le ramadan, pour qu'elle n'ait pas des règles et qu'elle puisse faire le ramadan. Mais il faut bien faire la différence entre c'est permis et ce n'est pas conseillé. Non, ce n'est pas conseillé à une femme pendant le ramadan de prendre la pilule. De préférence, elle reste naturelle. Mais si elle la prend toutefois, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Tandis que pour le hajj, si elle sait que la pilule ne lui fait pas mal, des fois la pilule fait mal. Si elle sait que la pilule ne lui fait pas mal, que le médecin la lui conseille, elle peut la faire, inshallah ta'ala, pour accomplir le tawaf. Na'am, tafaddal. Pour le fait que l'homme a plus d'adoration que la femme pour cause de mensuel, de l'exemple de la salade, est-ce que vu qu'elle ne peut pas, le hadith Qudsi, Allah dit que celui qui est malade et celui qui ne peut pas faire ses adorations habituelles, Allah ta'ala lui inscrit à cette personne quand il a vécu. Barakallahu fik. Nawawi. Et beaucoup de ulama ont parlé de cela. Ils ont dit quand quelqu'un, quand il n'est pas malade, il a l'habitude de faire la prière. Ensuite, lorsqu'il tombe malade, Allah Azza wa Jalla lui écrit comme s'il n'était pas malade. Lui écrit toutes les prières qu'il faisait quand il n'était pas malade. La même chose pour le voyageur. Quand quelqu'un a l'habitude de faire beaucoup de nafila, ensuite il voyage. Quand il voyage, c'est pas la peine de faire la nafila. Allah Azza wa Jalla va lui écrire toutes les nafilas, sauf bien sûr la prière du Fajr et la prière du Witr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé. Il les a toujours faites, même en voyage. Et si la femme, quand elle ne fait pas, parce qu'elle a les menstrues, le fait de ne pas faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que Allah lui a dit de ne pas faire. Donc elle, quand elle ne fait pas, elle a obéi à Allah. Et quand elle a obéi à Allah, subhanahu Azza wa Jalla, inshallah ta'ala, il lui donne des hasanat parce que elle a obéi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Un frère pose la question: arrive-t-il que des femmes n'ont jamais des menstrues et comment faire pour la salade de hajj, etc.? Si une femme n'a jamais de menstrues, comment qu'elle fait pour la salade de hajj, etc.? Si une femme n'a jamais de menstrues, je ne sais pas, il faut le demander aux femmes. Une femme n'est jamais de menstrues, il faut le demander aux femmes. Mais dans le prochain dars, inshallah ta'ala, on va parler de quand une femme ne sait pas si ce sont des menstrues ou bien si c'est istihad à la 29, comment qu'elle doit faire ou comment qu'elle doit réagir. Et si une femme n'a jamais de menstrues, Allah, je ne sais pas. il faut le demander aux femmes. Les menstrues, comme a dit Cheikh Al-Taymin, c'est tellement compliqué. Même les menstrues elles-mêmes, ça s'appelle des règles. Et pourtant, ce n'est pas vrai, elles sont déréglées, c'est pas vrai. Des fois, ça vient au début, des fois, ça vient à la fin, des fois, ça se coupe, des fois, ça se groupe. Des fois ça se coupe un jour, ensuite il n'y a rien, ensuite un jour, ensuite il n'y a rien, ensuite le contraire, ça se groupe, ça vient 14, 13 jours, 15 jours, 16 jours. Elle est tellement compliquée que Allah Azza wa Jalla a'lam. Un frère dit, quand vous faites, quand vous dites, faites tout ce que vous voulez avec, sauf les rapports, est-ce le rapport de la bouche au sexe du conjoint sont nécessaires? Est-ce que cette pratique pour nous, pour nous, etc. Quelles sont les causes de ces questions-là, les causes qui autorisent cette pratique? On vous dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez avec, sauf le rapport, est-ce que le rapport de la bouche au sexe du conjoint sont nécessaires, etc. Ces choses-là n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses-là n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sûr que ce sont les kuffars qui ont inventé cela. De toute façon, quand une femme fait cela avec l'homme, elle a fait le haram en quel sens? Elle a fait le haram en ce sens que, le sexe de l'homme, quand l'homme veut faire un rapport avec sa femme ou là, il y a ce qu'on appelle un liquide qui sort de lui. C'est pas le liquide féminin, c'est l'autre liquide, je l'ai oublié. En arabe, il s'appelle navi. En arabe, il s'appelle navi. Je connaissais comment il s'appelait en français. Maintenant, voilà, je me rappelle maintenant. Il s'appelle le liquide visqueux. Quand un homme veut une femme, il y a quelque chose qui sort de lui, quelque chose de visqueux, hein, quelque chose qui est un peu de collant comme ça. Donc, cette chose-là, c'est une najasa. Donc, si une femme fait cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a la najasa dans la bouche. Quelqu'un qui a la najasa dans la bouche, c'est sûr qu'il a fait un haram. Surtout, c'est sûr qu'il a fait un haram. Il ne faut pas prendre avec les fatwas de Qaradawi et des autres qui disent que yani, vous pouvez faire n'importe quoi, etc. Ceux-là, ils veulent yani, tout faciliter pour attirer les gens. Nous, on dit aux gens la vérité. Ça, parce que c'est haram, c'est pas pour attirer les gens. On leur montre ce que les sites prostatiques. On leur montre ce que, yani, ce qui est halal, ce qui est haram. C'est pour ça que il y a une différence quand elle met cette chose-là dans sa bouche avec la najasa et quand elle la met pas dans sa bouche, quand elle l'embrasse seulement, par exemple elle l'embrasse seulement cette chose, ou bien yani, avec sa langue, mais elle ne fait pas rentrer ça dans sa bouche, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que elle n'a pas la najasa dans la bouche. Mais je suis sûr que ce sont les kuffars qui ont inventé cela et ils ont donné aux musulmans wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça va le prochain sou'al, inshallah. Sur le fait de dénouer ses cheveux pour le lavage des menstrues, le cheikh a dit obligé de dénouer, pouvez-vous lui demander? Il n'y a pas de divergence, barakallahu fik. Il faut bien comprendre que je n'ai pas dit qu'il fallait dénouer pour tous les lavages. J'ai dit qu'il fallait dénouer seulement pour le lavage des menstrues. Naam. Et j'ai dit que pour le lavage de la janaba, elle a le droit de ne pas dénouer. Pour le lavage de la janaba, elle a le droit de ne pas dénouer. Et j'ai dit pourquoi? Parce que ça se fait souvent. Mais les menstrues, c'est seulement une fois par mois. Est-ce qu'il y a divergence? Il faudrait que vous sachiez une chose, mes frères et mes sœurs. Quand on demande est-ce qu'il y a divergence, est-ce qu'il n'y a pas? Et moi, je répondrai, il n'y a pas une chose en islam où il n'y a pas de divergence. La ilaha illallah, il y a divergence. Oui, il y a divergence. Qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a divergence. Mais nous, on cherche quel est le plus juste. Il faut chercher, est-ce qu'il y a un hadith? Quand il y a un hadith qui est vrai et authentique, c'est pas la peine qu'on cherche est-ce qu'il y a divergence ou est-ce qu'il n'y a pas. Il y a un hadith qui est authentique et qui dit à la femme que si elle veut se purifier des menstrues, elle doit enlever et elle doit dénouer. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. Allah Azza wa Jalla a dit, وإن تطيعوه تهتدوا. Si vous obéissez au prophète, vous serez guidé. Et il a dit, وَأَطِعُوا اللَّهُ وَأَطِعُوا الرَّسُولُ. Obéissez à Allah, obéissez aussi au prophète. Il a dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit quelque chose, ben dit quelque chose, il n'est permis à aucun musulman ou là aucune musulmane ou là aucun croyant ou là aucune croyante de dire yani je ne le suis pas. Il faut le suivre. Donc ici on a un hadith sahih qui dit que chaque femme qui va se laver pour ses menstrues doit dénouer ses cheveux. Soit tu prends avec le hadith, tu as un ajr inshallah ta'ala. Et maintenant s'il y a des gens, même si on suppose seulement, on dit, il y a des ulama qui ont dit non. Les ulama, on leur dit barakallahu fikoum, vous êtes des grands ulama, mais on ne vous suit pas ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas yani, marché avec le hadith. Peut-être vous êtes excusé, vous ne connaissez pas le hadith, ou peut-être pour vous le hadith est faible. Là, vous êtes excusé chez Allah Azza wa Jal. Mais moi, j'ai un hadith sahih, je ne peux pas le laisser. Mais je dois mordre sur ce hadith pour que yani, il ne parte pas. Tafadhal inshallah, prochain sou'al. Lors de nos menstrues, pouvons-nous lire et apprendre des sourates sur un livret en arabe comportant un ou deux douze du Coran avec les règles en couleur d'Ahkam Tajwid? Quand une femme est en menstrue, si elle prend un livre par exemple de Coran qui est par exemple Coran plus explication, Coran plus Kala, yani, ça ne s'appelle pas un Coran, ça n'a plus les règles du Coran. Le Coran, c'est le livre qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alif Lam Mim, et il se termine par Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Mais s'il contient arabe, français, etc., celui-là, c'est pas le Coran, yani, à 100%. C'est pas le Coran qu'on ne peut pas toucher. C'est pour ça que, si on a des menstrues, on peut prendre, par exemple, un juz comme ça, on peut le prendre, yani, surtout, si on a l'habitude, par exemple, d'apprendre, et on a peur d'oublier. Mais celui, ou bien, pardon, celle qui n'a pas l'habitude d'apprendre, c'est pas la peine de toucher, même le juz, c'est pas la peine de le toucher, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais celle qui a l'habitude d'apprendre le Coran, et elle a peur de l'oublier, elle prend ce juz celui-là, et elle le lit, inshallah ta'ala. Ça va. Salam alaikum, voici ma question. Pour celui qui fait le hajj, est-ce que le sacrifice du pèlerinage, le hadi, compense le sacrifice de l'aïd de la famille, rester au pays, ou bien il faut faire le sacrifice séparément? Celui qui fait le hajj, est-ce que le sacrifice du pèlerinage, le hajj, compense le sacrifice de l'aïd, ou bien il faut faire le sacrifice séparément? Pour celui qui a de l'argent, il le fait séparément. Pour celui qui a de l'argent. Parce que l'autre, c'est pour le hajj, et l'autre, c'est pour diviser par trois et pour que la famille profite et mange, etc. Alors que le hadi va rester seulement en Arabie Saoudite. Celui qui a de l'argent, il a les moyens, il laisse l'argent chez sa famille pour le kebsha de qui sera égoré dans la famille, et le deuxième pour celui du hajj. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal. Le siwak sur un hadith qui dit que innahu mardatun lirrab wa mataharatun lilfam, mataharatun lilfam mardatun lirrab. Sur un hadith qui dit que il purifie les dents, donc ici c'est comme la brosse aussi purifie les dents. Mais le siwak a dit quoi? Il a dit mardatun lirrab, Allah azza wa jalla l'aime. Ça veut dire quand tu fais le siwak, Allah azza wa jalla aime ce que tu as fait, donc tu as des hasanat. Maintenant la brosse à dents ne peut pas yani être à la place du siwak. Yani la vraie, la chose la meilleure, c'est qu'on fasse les deux. C'est-à-dire, le siwak, on le laisse pour le wudu et la salat, et la brosse à dents, on la laisse pour la nuit avant de dormir, et le matin quand on se lève, ou là après avoir mangé. Ça, c'est la meilleure des choses, de jouer entre les deux. La brosse à dents, après avoir mangé, ou là avant de dormir, ou là quand on se lève, et le siwak pour le wudu et pour la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, en Cheikh al-Albani, il l'a authentifié, il a dit ma zala Jibril yusini bi siwak hatta zanantu annahu sa yufridu. Il a dit, et Jibril, tellement il me parlait du siwak que je me suis dit il va venir, il va me dire il est obligé. Tellement Jibril me parlait du siwak que je me suis dit c'est sûr, il va venir demain ou là, il va me dire Allah Azza wa Jal a obligé le siwak. Naam, tafadhal. Je voudrais savoir pour une sœur qui lit le Coran tous les jours, est-ce pendant ses mensonges, elle pense qu'elle peut le lire sachant que ses mensonges peuvent durer jusqu'à 10 jours et qu'il est difficile pour elle de rester sans lire le Coran. Non. Pour celle qui lit seulement, qui lit, je veux dire, elle n'est pas obligée d'ouvrir le livre. Mais elle peut demander à quelqu'un de lui ouvrir le livre. De lui ouvrir le livre et elle lit avec les yeux. Elle peut demander à quelqu'un de lui ouvrir le livre et de lire avec les yeux. Toutefois, je dis, comme on dit les ulama, ils ont dit que les menstrues, ils ont dit que c'est pas beaucoup. Même si c'est 10 jours, c'est pas beaucoup. Ils ont dit, mais si la femme a l'habitude de lire beaucoup, ou bien a l'habitude d'apprendre, celle-là, yani, il lui est permis sans toutefois le toucher. Il lui est permis sans toutefois le toucher. Mais si ce n'est pas dans ses habitudes, elle n'a pas l'habitude de lire, celle-là, c'est pas la peine qu'elle dise. Pourquoi? Elle attend qu'elle se purifie. Mais c'est spécialement une rukhsa. C'est une rukhsa. Comment on dit une rukhsa en arabe, en français? Une rukhsa. C'est une permission pour celle qui a l'habitude de lire et qui a peur de l'oublier. Autorisation. Non, c'est l'autorisation. Imaginez une femme qui veut apprendre tout le Coran. Si elle reste 10 jours sans réviser, c'est trop pour elle. Celle-là, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude d'apprendre. Mais celle qui n'a pas l'habitude, ce n'est pas la peine, inshallah ta'ala. Pardon. Un frère dit, comment discerner la couleur des règles lorsque c'est la femme? Et si la différence de couleur du sang survient après le 4e jour, doit-elle se laver et prier? J'ai pas bien compris la question. La femme qui a le liquide blanc, elle attend le liquide blanc, il est perte. Ça l'intéresse pas la couleur. Elle doit attendre jusqu'à ce que elle voit le liquide blanc. Si c'est une femme du deuxième sorte, la deuxième sorte, qui n'a pas le liquide blanc, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, quand elle sait que là, c'est sec, il n'y a rien, elle n'a jamais de liquide blanc, elle n'a jamais de perte, celle-là, quand elle sent que c'est sec, là, elle va se purifier, elle fait la prière. Maintenant, si après, il y a quelque chose qui sort, de noir ou là, ça ne l'intéresse pas, là, l'essentiel, c'était sec, donc ça ne compte pas ce qui vient après. Mais celle qui a les pertes, même si c'est sec, elle n'a pas le droit de quoi? De se laver. Il faut qu'elle attende le liquide blanc. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit et je redis, il se peut qu'une femme soit sec, n'est pas le sang, mais elle est en plein règle. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la période des règles. Elle est dans la période des règles. Et puis, le sang des règles, il est noir, il a une odeur, et il est mince, il n'est pas gras, et il ne se coagule pas. Ça va le prochain, Inch'Allah. Une sœur dit, je voudrais juste qu'il répète l'histoire du juillet qui a mis le sihr. Jazakallahu khairan. Naam. Quand quelqu'un, il a du sihr, les ulama disent, vous pouvez voir ça dans le sihr al-Bari, qui a été, il y a une tahqiq Sheikh Ibn Baz. Rahmatullah, vous pouvez trouver cela. Quand quelqu'un a du sihr, spécialement, surtout s'il ne peut plus faire le rapport avec sa femme, surtout par exemple cela, lui a fait quelque chose le jour de son mariage ou là, il prend 7 feuilles de jujubier. 7 feuilles de jujubier, et il prend deux cailloux, il les met. Les 7 feuilles, une feuille après une feuille, entre les deux cailloux, et il frappe les deux cailloux. Yani, il prend un caillou, il met dessus la feuille du jubé, avec le deuxième caillou, il frappe la feuille qui est un peu sèche. Ensuite, il prend les 7 feuilles qui ont été écrasées par les deux cailloux, il les met dans de l'eau, il prend l'eau à la, ensuite, il se lave avec cette eau. Inch'Allah ta'ala, ce sera bi'idn al-azza wa jal annulé. Ce sera annulé, surtout s'il l'a fait avec Inch'Allah ta'ala, l'intention Inch'Allah ta'ala et tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez par exemple, quand je vous ai parlé par exemple mercredi passé, j'ai parlé du mauvais œil. Et j'ai dit que beaucoup de gens, le prophète sallam, a dit la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Ça, c'est le hadith du prophète sallam. Il a dit la plupart de ma nation. C'est pas beaucoup de gens. La plupart, ça veut dire, disons, 80%. La plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Beaucoup de gens ne croient pas au mauvais œil. Et s'ils y croient, ils ne savent pas, par exemple, quelle est la solution. Moi, je connais un ami. Sauf, écoutez bien ce que je vous dis. Je connais un ami qui est un frère, qui est barbu, qui est avec le qamis, qui est, yani, masha'Allah, sabu kadarik, ou la uziki Allah ahadam. C'est-à-dire, ce n'est pas un menteur. C'est un akh mustaqim. Un akh, qamis, barbe, yani, mosquée, etc. Masha'Allah. Il m'a dit, j'ai ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon père. Amti. En arabe, on dit Amati. Il m'a dit, j'ai la sœur de. C'est quoi ça? Non. Il a dit, j'ai la sœur de ma tante qui a beaucoup de filles. 6 ou 7 filles, je ne sais pas, je ne me rappelle pas combien. Toutes ces filles, elle n'a pas de garçon. Toutes ces filles sont très obéissantes envers sa mère, elle est envers sa tante. Yani, les filles Hadou, elles sont mariées, mais yani, à chaque fois qu'elles viennent chez leur mère, elles achètent des cadeaux et elles la font sortir, etc. Très obéissantes à leur mère. Et sa tante a une autre femme de la famille, je ne sais pas, sa cousine ou là, qui n'a que des garçons. Et ces garçons, 5 ou 6, ce sont des personnalités, des directeurs, etc. Mais tous, Allah al-Afiya, désobéissants. Ils boivent de l'alcool, etc. Il m'a dit, ma tante, une fois elle était chez elle, l'autre femme qui n'a que des garçons est venue lui rendre visite. Ensuite, tout en parlant, elle lui a dit, écoute, moi j'ai des garçons. À quoi ça sert d'avoir des garçons puisqu'ils sont désobéissants, etc. Mais toi, tu as des filles. Toi, tu as des filles obéissantes. Toi, tu as des filles qui t'aiment. Toi, tu as des filles à commencer à dire comme ça. Sans dire jamais, Masha'Allah, ou la quwata illa billah, ou la alhamdulillah. Sans jamais invoquer Allah Azza wa Jal. Ensuite, quand cette femme est partie, il m'a dit, ma tante est allée dormir. Le matin, quand on a voulu la réveiller, elle était paralysée. Elle a eu ce qu'on appelle en arabe jalta. Je ne sais pas comment on dit en français jalta, c'est-à-dire le sang se coagule. Le sang devient comme une boule et il bouche les veines. Ensuite, le sang ne peut plus circuler. Quand le sang ne peut plus circuler, on s'évanouit et on peut mourir parce que le sang ne va pas au cœur. Il a dit, on a essayé. Yani, on a fait un caillou, barakallahu fi. Non. Un caillot de sang, exactement, un caillot de sang. Elle a eu un caillot de sang. On l'a prise à l'hôpital, on a fait venir un médecin, ça n'a rien donné. Il m'a dit ensuite, yani, ses filles qui étaient tout le temps avec elle, bien sûr, elles ont eu très peur, elles ne parlent pas, elles ne bougent pas. On lui a dit, yani, qu'est-ce que tu sens, est-ce que tu sens ceci, cela, est-ce que tu sens que c'est un sihr? Elle n'a pas bougé, elle n'a rien dit. Est-ce que tu sens, par exemple, c'est un mauvais œil? Elle a un peu bougé les yeux, ça veut dire, elle voulait dire oui, mauvais œil. On lui a dit, là, tu doutes de qui, par exemple? Ensuite, on lui a cité la femme qui n'a que des garçons. Et qui lui a dit, toi, tu as des filles, etc. Elle a touché, elle a yani, bougé un peu les yeux, ça veut dire oui, c'est elle. Non, je sens que c'est elle qui m'a frappé d'un mauvais œil. Il m'a dit, alors les filles m'ont téléphoné pour dire, voilà, il faut que tu trouves une solution. Il m'a dit, on a envoyé quelqu'un, une femme, chez cette femme. Une femme qui la connaît, on l'a envoyée chez elle. On lui a dit, il faut que tu nous rapportes son wudu. Car le prophète, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous connaissez quelqu'un qui frappe du mauvais œil, vous lui demandez qu'il vous donne son wudu. Il fait les ablutions devant vous, il vous donne. Ses ablutions, vous vous lavez avec. Il a dit, on a envoyé une femme à cette femme, elle est rentrée chez elle, comment vas-tu, très bien, merci, alhamdoulilah, etc. Quand c'est venu l'heure de la salat, la femme a dit, bon, seconde, je vais faire les ablutions. L'autre qui a été envoyé lui a dit, non, c'est pas la peine. Aujourd'hui, inshallah, tu restes ici, c'est moi qui te fais les ablutions. Subhanallah, non, ça, tu restes ici, inshallah, moi je te fais des ablutions, tu es comme ma mère, je te respecte, etc. Même l'autre c'était étonné, subhanallah. C'est-à-dire, d'où c'est venu hein, toute cette éducation. Un mohim, elle a ramené une petite bassine, etc. Elle lui a dit, voilà, fais le wudu ici, elle a fait le wudu. Ensuite, quand la femme a voulu jeter, elle lui dit, non, Inch'Allah, reste où tu es, c'est moi qui jette aujourd'hui. Moi, Inch'Allah ta'ala, je suis ton esclave aujourd'hui. Entre parenthèses, laisse-moi prendre seulement de l'eau. Ensuite, elle est allée, je ne sais pas, à la salle de bain là, et elle a fait verser l'eau là dans une bouteille qu'elle avait avec elle, dans le sac, là, dans un cabage. Il m'a dit, elle a mis l'eau, les ablutions dans la bouteille. Ensuite, bien sûr, elle a discuté un peu, elle a dit salam alaikum, et elle a donné cette eau à ce R qui m'a raconté. Il m'a dit, elle m'a rapporté l'eau de ses ablutions. Il m'a dit, j'ai été chez ma tante, j'ai donné l'eau à une de ses filles, et je lui ai dit, voilà, je t'ai ramené l'eau de la femme. Inch'Allah, il faut laver ma tante avec cette eau. Il m'a dit, je leur ai donné l'eau. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai marché 20 minutes pour aller chez moi. La fille de ma tante me téléphone, elle me dit, écoute, ta tante, on l'a lavée, elle s'est levée et elle marche. Ta tante, on l'a lavée, classe, elle s'est levée et elle marche et elle court dans la maison. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Voilà, regardez. Les médecins, quand il m'a raconté ça, j'ai senti la chair de poule. J'ai senti la chair de poule quand il m'a raconté ça. Naam, si on avait fait ramener le plus grand professeur, il n'aurait rien pu faire. Si on l'avait emmené aux États-Unis, il n'aurait rien pu faire. Pourquoi? Parce qu'il faut le dawa, il faut le médicament du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, celui qui te frappe avec un mauvais œil, c'est pas la peine d'aller chez les plus grands spécialistes du monde. Il faut aller lui enlever les ablutions. Les ablutions. Ils lui ont dit, wallahi, wallah, wallah. Je suis pas arrivé à la maison, on m'a téléphoné, on m'a dit, on a lavé ta grand-mère, et classe, elle marche, et elle parle, et elle rigole, et elle discute, et elle plaisante, classe. C'est comme si rien ne lui était arrivé. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tfaddal, inshallah, encore deux ou trois questions. Tfaddal. La pharmacie monstrueuse terminée. Elle se lave, mais le temps entre les prières et cours d'hiver. Quand elle est lavée, elle est propre et n'a plus d'écoulement. Est-ce qu'elle peut prier? Je répète. La femme, quand elle a terminé ses monstres, elle se lave, mais le temps entre les prières est court l'hiver, entre les prières. Quand elle est lavée, elle est propre, il n'a plus d'écoulement. Est-ce qu'elle peut prier? Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Naam, si elle se lave et elle prie. Je ne vois pas pourquoi elle dit est-ce qu'elle peut prier. Bien sûr qu'elle peut prier, puisque il n'y a plus d'écoulement. Et puisque peut-être elle a vu le liquide blanc, si elle doit le voir. C'est parfois après le lavage. Ah, l'écoulement vient après le lavage. Et maintenant, je comprends. Car parfois après le lavage, l'écoulement n'est plus là. Mais vient beaucoup plus tard. Quand une femme voit le liquide blanc, ensuite, elle se lave et elle ne donne pas d'importance à ce qui coule après. Quand une femme voit les pertes blanches après les menstrues, ensuite il y a quelque chose qui coule, elle ne donne pas d'importance à cette chose qui a coulé. Elle fait le lavage et ensuite elle fait la prière, Inch'Allah Ta'ala. Et encore, si je n'ai pas bien compris la question, Inch'Allah Mishaq, tu m'écris encore. Je n'ai pas encore compris, hein, les biens. Non. Comment discerner cela? Comment discerner la couleur des règles? Comment discerner la couleur des règles lorsqu'il a faim et si la différence de couleur du sang survient après le quatrième jour? Doit-elle se laver et prier? J'ai répondu. Salam alaikum. Première question. Quand la femme a terminé sa période de menstrues ou alors a eu des rapports avec son époux lors du lavage majeur, doit-elle, lorsqu'elle se lave au départ, doit-elle laver déjà ses mains par ses intimes ou du savon à un produit fécond? Quand la femme a terminé sa période menstruelle, ou bien elle a eu des rapports avec son mari, lors du lavage majeur, doit-elle, lorsqu'elle se lave au départ, doit-elle laver déjà ses mains par ses intimes ou du savon à produit quelqu'un. Naam, si elle lave, voilà comment qu'elle fait. Et l'homme aussi fait la même chose. Avant de commencer, il prend du savon et il lave ses parties intimes. Il se lave par devant et par arrière. Pour ne pas toucher encore une fois ni par derrière ni par avant. Il se lave avec du savon. Et ensuite, il lave ses mains et il fait le petit wudu, les petites ablutions. Il laisse ses pieds. Ensuite, il commence par les grandes ablutions et termine avec ses pieds. Donc, il commence avec, il prend le savon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lave par devant et par arrière. Et ensuite, il lave ses mains. Il lave ses mains pour avoir touché les deux parties. Et ensuite, il fait les petites ablutions. Et il laisse ses pieds. Ensuite, il monte aux grandes ablutions. Et il descend et termine avec ses pieds. Allah subhanahu wa ta'ala a'alam. Tfadal. Qu'est-ce qui est le meilleur de faire pour la femme qui a ses menstrues? Le jour de l'Aïd, peut-elle aller à la mosquée? Le jour de l'Aïd, la femme qui a les menstrues, non seulement elle peut aller, mais c'est conseillé. C'est beaucoup conseillé pour une femme qui a les menstrues d'aller le jour de l'Aïd pour écouter le dars. Mais elle doit toutefois, elle doit être loin de l'endroit où on fait la prière. Elle doit être un peu de côté, s'il y a par exemple des escaliers. Et là, il y a l'endroit où on fait la prière. Elle reste, par exemple, dans les escaliers. Elle reste un peu loin de l'endroit où on fait la prière. Mais c'est très conseillé à la femme qui a les menstrues de sortir le jour de l'Aïd. Même les enfants, etc., tous vont le jour de l'Aïd. Ça s'appelle l'Aïd. C'est un jour de grande fête. Pour que tout le monde aille à cette salle-là. Comment discerner la couleur des règles lorsqu'il y a la faim? Je n'ai pas compris, Ali. Et si la différence couleur du sang survient après le quatrième jour, doit-elle se laver? J'ai pas compris, Omar Abdallah. Comment discerner la couleur des règles? J'ai dit la couleur des règles, j'ai dit que, c'est-à-dire comment discerner pour commencer les règles, pour commencer ou là pour finir? Et j'ai répondu, Ali, tout à l'heure, c'est ça, j'ai répondu. Non, j'ai répondu. On me demande que vous répétiez la question suivante lors de mon sou. Pouvons-nous lire et apprendre les surat sur un livret en arabe, comme pour faire une douce du Coran avec les règles en couleur d'Ahkam attribuées? Pour celles qui ont l'habitude d'apprendre, elles peuvent prendre un douze seulement, pas tout le Coran. Un douze, surtout s'il n'y a pas seulement le Coran. Surtout s'il y a à l'intérieur des choses avec, des règles ou la spécificité des règles, etc. Ahkam. Naam. Pour celles qui ont l'habitude d'apprendre, c'est pas pour n'importe qui. Pour celles qui ont l'habitude d'apprendre le Coran, c'est pas pour celles qui n'ont pas l'habitude. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Par rapport avec ce cours, je voudrais savoir, inshallah, combien de fois un frère et une soeur peuvent se rencontrer dans des conditions du digne, bien entendu, avant d'avoir rendu la réponse pour le mariage. Et combien de fois peut-il se voir après que la réponse soit rendue? Si oui, bien entendu, barakallahu fik. Je voudrais savoir combien de fois un frère et une soeur peuvent se rencontrer dans des conditions du digne. Quand le frère veut faire la muqabala, il se rencontre. C'est la seule fois qu'ils vont se rencontrer. Il va à la muqabala, il la rencontre devant son tuteur. Elle n'a le droit de lui montrer que son visage et ses mains. Son visage et ses mains, pas ses bras. Ses mains, ses deux mains et son visage. Elle ne lui montre ni ses cheveux, ni son tibia. Elle montre seulement le visage et ses deux mains. Si quelqu'un voudrait voir en plus de cela, voudrait voir plus que le visage ou les deux mains, il a l'une des deux solutions. Ou bien il envoie sa mère ou sa soeur, car une femme, devant une autre femme, elle peut montrer son tibia, elle montre son cou, elle montre ses cheveux, elle montre, c'est pas interdit. Ou bien, il fait comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من ألقى الله في قلبه خطبة إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة en ce sens là. Il a dit, من استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. Il a dit, si quelqu'un de vous il trouve dans son cœur qu'il veut demander une femme, il a dit, s'il peut, sans qu'elle le sache, elle, il ne faut pas qu'elle le sache, sinon ça rentre dans le haram. S'il peut se cacher afin qu'il voit des choses d'elle, qu'il le fasse. C'est pour ça que Jabir ibn Abi Abdillah, il a dit, je me cache derrière un arbre pour voir X. Il a cité la femme jusqu'à ce que je me suis marié avec elle. Et un autre sahabi a dit, je me suis caché sur la terrasse d'une maison pour voir X. La femme a dit, hatta j'ai vu d'elle ce que je voulais, ensuite je me suis marié d'elle. C'est-à-dire que pour toi, si tu as l'occasion de la voir sans qu'elle sache, elle, tu la vois dans un endroit où elle fait le sport, où elle fait je ne sais pas quoi, tu peux la voir, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas qu'elle sache. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça veut dire on va faire l'espionnage. Hein. Certains vont acheter des jumelles, et vont voir où habite cette porte. Il va louer un appartement, il va rester en face d'elle, hein, la caméra et les jumelles, etc. Il va dire, ça y est, je vais devenir un espion. C'est pas ce que je veux dire, moi. Je veux dire, yani, si c'est facile, tu peux suivre cette femme de loin ou là, tu vois où, yani, est-ce que, tu peux voir ses cheveux ou là, si tu peux, sans qu'elle sache elle, ça c'est une permission que t'as donné l'islam, inshallah ta'ala. Et combien de fois maintenant, quand il la voit, après la muqabala, quand il la voit, même s'ils acceptent, même après on lui téléphone, on lui dit, voilà, yani, on a réfléchi, inshallah ta'ala, on t'a donné la fille, inshallah ta'ala, khlas, on a accepté, etc. Ce n'est pas ta femme. Ça ne veut pas dire que khlas, tu vas commencer à lui téléphoner ou là à sortir avec elle. Je dirais plus que cela, même si tu fais l'acte, khlas, tu as écrit l'acte, tu as fait ce qu'on appelle Fatiha. Tu as fait l'acte, là, l'imam est venu, les deux témoins, vous avez parlé de la dot, khlas. C'est-à-dire, c'est ta femme ou c'est pas ta femme? Khlas, c'est ma femme, j'ai fait l'acte avec elle. Avec l'acte, il est interdit que tu sortes avec elle et que tu sois seul, tête à tête avec elle, sans le mahram. Pourquoi? Parce que même si elle est ta femme, chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas eu le zifaf, ce qu'on appelle zifaf. Zifaf, c'est lorsque les parents de la femme, yani, te donnent, ils t'offrent la femme, a dit, qu'on ramène dans un cortège de voiture ou d'un cortège de je ne sais pas quoi, et tout le monde sait. Ensuite, il y a des femmes qui se rencontrent et elles font ce qu'on appelle des nashid, ou elles dansent la danse qui est valable, pas la danse de haram. Là, c'est devenu ta femme, tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Et beaucoup de femmes, dès qu'ils font l'aqd, encore sans l'acte, ils commencent là, ça se téléphoner. Comment tu t'appelles, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'on achète ou on n'achète pas, où on va habiter, où on va passer les vacances, où on va passer la Noël, où on va passer le Ramadan, est-ce que tu sais faire la shorba, la tchouka, la douara, ils vont pas s'arrêter de parler, alors que ce n'est même pas sa femme. Et d'autres, ils vont te dire, non, parce que moi, j'ai fait l'acte, là, c'est ma femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va même faire un rapport sexuel avec elle. Et si jamais, Allah, si jamais l'homme meurt, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, celle-là, comment se fait-il, elle est enceinte, elle ne s'est jamais mariée. Et qui est-ce qui va la croire? Et qui est-ce qui va demander sa main une autre fois? C'est trop tard pour elle. Et puis, dès que l'homme fait le rapport avec sa femme, avant de rentrer, avant de faire la nuit nuptiale, ensuite, là, ça ne lui dit rien, le mariage. À chaque fois, ensuite, on lui dit, c'est quand le mariage? Là, il a fait le rapport maintenant, pourquoi il n'est pas pressé. C'est pour ça qu'il faut qu'elle l'empêche cela, pour qu'il soit pressé, pour qu'il se marie avec elle. C'est pour ça qu'il est conseillé à quelqu'un qui vient vous demander la fille, il est conseillé de ne pas lui faire l'acte, ne pas le faire l'acte avec lui. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le mariage, le jour de la nuit nuptiale, rapproche. Donc il reste seulement un mois pour le mariage, ou là deux mois ou là, on lui fait. C'est pas on lui fait maintenant, il se marie dans trois ans. Trois ans en train de plaisanter dans le téléphone, trois ans, tous les deux jours il vient à la maison, tous les deux jours il est avec elle dans la chambre. Ensuite, là, ça c'est pas de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Une autre question, inshallah. Il reste 10 minutes. Chez moi, il est 1h20. 1h30, inshallah. Ibrahim, tu fermes, inshallah, 1h30, il est 1h20 chez moi, du matin. Salam alaikum. Vous venez pas du mauvais œil et son remède se trouve dans les ablutions, celui qui l'a jeté comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Qu'en est-il de la personne qui a jeté le mauvais œil mais n'est pas musulmane? Doit-on toujours prendre ses ablutions ou y a-t-il une autre manière de supprimer le mauvais œil? Naam, il y a un livre très très beau. Il se trouve sur internet. Il s'appelle en arabe Kayfatu Alidu Maribak. Kayfatu Alidu Maribak. Je demande à quiconque de faire descendre ce livre de l'internet. Vous allez à Google, vous écrivez en arabe Kayfatu Alidu Maribak. Ensuite, vous trouvez le livre, vous le téléchargez. Il contient des choses. C'est de l'Akh Subhan, c'est de Alam Abdelaziz Subhan qui l'a écrit. C'est quelqu'un qui est très, très, très proche de Sheikh Ben Baz. Il est venu ici deux fois au Koweït. Je l'ai vu moi. Je me souviens que quand quelqu'un lui a dit donne-moi ton numéro de téléphone, il lui a dit ça fait rien, je te donne mon numéro de téléphone, mais je ne sais pas si tu peux me contacter. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit chaque jour, j'ai entre 600 et 700 appels téléphoniques. Entre 600 et 700. Alors, je ne sais pas si tu peux me contacter. Entre 600 et 700. Celui-là, il a écrit ce livre, Kayfatu Alidu Maribak. Il a dit à l'intérieur, il s'est basé sur des affaires, que la meilleure des choses, c'est les ablutions. Si on ne peut pas les ablutions, on essaie de lui enlever un vêtement, un mouchoir, un khimar, quelque chose, yani, qui a l'odeur, pardon, qui a la sueur et l'odeur de cette personne. La sueur ou bien l'odeur de cette personne. Il a dit cette chose, on peut la faire bouillir, ensuite on se lave avec ou bien on boit. Maintenant j'ai dit ou bien, ça veut dire c'est moi qui ai oublié, jusqu'à ce que je vois ensuite le livre. Je crois qu'il a dit on boit ou là on se lave avec. De toute façon je l'ai lu dans un autre livre. Donc on peut lui prendre une chose de ses habits, une chose de ses habits. Non. Comme cela, peux-tu demander si le chef connaît le chef Abdurrahman al-Hashimi, il était algérien, rahmallah, car il a fait des cassettes, mashallah. On me demande si on peut prendre patience de lui. Abdurrahman al-Hashimi, je crois que c'est quelqu'un qui fait des doros comme ça, yani en derija. Il parle pas arabe littéraire. Est-ce que c'est celui-là? Il parle comme ça, yani derija. Il parle algérien, il parle pas arabe. Je ne sais pas si c'est lui. Et si c'est lui, non, c'est lui. Si c'est lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai entendu parfois, une fois j'étais dans un, une fois ça fait seulement une année. Ça fait seulement une année. J'étais en Algérie, à Blida, je suis rentré dans une épicerie, j'ai entendu quelqu'un parler dans une cassette. Par curiosité, j'ai dit, qui c'est celui-là? On m'a dit, Abdurrahman al-Hashimi. J'ai dit, subhanallah, je n'ai jamais entendu de ma vie. Mais je ne peux pas donner un jugement sur lui. Il m'a paru, je dis, il m'a paru seulement. Il m'a paru que, yani, il parlait pas dans le minhaj. Il m'a paru que c'est le genre, Wallahu A'lam, qui dit n'importe quoi. Wallahu A'lam. Mais je ne peux pas porter un jugement de lui, je ne suis pas très sûr. Il faut que je l'écoute pour être sûr de ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui parle comme ça, yani, de façon générale, il ne parle pas dans minhaj, aqidah, etc. Allah subhanahu wa ta'ala. Encore, inshallah, une ou deux questions. Un frère pose, est-ce que c'est une sunna de se teindre la barbe en roux, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et si oui, avec quel produit? Ce n'est pas obligé de se teindre la barbe en roux. C'est une question, pardon, c'est une question. J'ai lu ça d'Abu Talib. C'est une sunna. C'est une sunna de ne pas laisser sa barbe blanche et ses cheveux. C'est une sunna de l'échanger. Mais on n'est pas obligé de l'échanger en roux. On peut l'échanger en marron. On peut l'échanger en, yani, marron foncé. Mais on ne peut pas, yani, changer la barbe et la teindre en noir. Même pour la femme, il est interdit qu'elle yani, teigne ses cheveux en noir. Le noir est interdit. Les autres couleurs ne sont pas interdit. Ensuite, regardez barakallahu fikoum. La barbe, quand elle blanchit, ou là nos cheveux blanchissent, le prophète alayhi salam a dit, khalifou, yani, ne faites pas comme les chrétiens et les juifs, ne laissez pas votre barbe et vos cheveux blancs, yani, ne faites pas comme eux. Khalifou, mouchlikin, il a dit, teignez-les. Cheikh Islam Ibn Timiya a dit, subhanallah, le fait qu'on ait les cheveux blancs ou la barbe blanche, c'est pas de nous. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous donne cela. Il a dit. Alors, Allah Azza wa Jalla t'a donné, c'est lui qui t'a a rendu tes cheveux blancs et il t'a dit, il faut changer de couleur pour ne pas ressembler aux copains. Alors, qu'en est-il de ceux qui, eux-mêmes, veulent ou la font des choses qui ressemblent aux copains? Vous avez compris? Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a donné la barbe blanche. Et malgré cela, il t'a dit, change-la. Change-la. Alors, qu'en est-il de celui qui lui-même, c'est lui, yani c'est pas d'Allah, c'est lui qui va faire des choses pour ressembler aux kuffars, dans les habits, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se coiffer, dans la façon. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yihdiyana, yu'allimana. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Tafadhal, inshallah. Frère de moi, salam alaikum. La dernière fois, je vous ai écouté, cheikh, vous avez dit que de faire les ablutions une fois était bid'a. On le faisait tout seul. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'une fois était une obligation. Non. Tu m'as pas compris. Moi aussi, j'ai dit que quand on fait une fois, on a fait l'obligé. Ça aussi, je l'ai dit. Quand tu fais la deuxième, tu as fait encore mieux. Et j'ai dit, quand tu as fait la deuxième, tu as fait une sunnah. J'ai dit, quand tu as fait la troisième, tu as fait un mustahab. Et j'ai dit, pour ceux qui comprennent, quelle est la différence entre le mustahab et la sunnah. Mais j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire ne l'a pas fait? Ça veut dire n'est pas resté toute sa vie en train de faire seulement une fois. Ça veut dire, on fait seulement une fois quand on n'a pas, par exemple, assez d'eau. Assez d'eau, on fait seulement une fois. Mais quand on a assez d'eau, on doit, il est conseillé de faire deux fois, de faire trois fois, mais ne pas dépasser faire quatre fois. Maintenant, si quelqu'un dit, moi je veux faire seulement une fois pendant tout le monde, quelqu'un qui a fait comme toi, il a fait toute sa vie seulement une fois. Donc nous, quelqu'un, un sahabi, qui toute sa vie a fait une fois. Donc nous, quelqu'un, pour qu'on rentre pas dans l'innovation, donc nous, quelqu'un, on va le limiter. Quelqu'un des salaf salah qui, dans sa vie, est resté toute sa vie à ne faire qu'une seule fois. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète Hassan n'a pas fait toute sa vie seulement une fois. Il a fait une fois pour montrer qu'il était possible de le faire. Et dans ce sens que je pense que si quelqu'un va faire toute sa vie une fois, et il va dire que je fais cela parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui aime que je fasse cela, je lui dis pardon, ça tu as fait une bid'a. Le prophète Hassan ne l'a pas fait. Il a montré seulement que c'était possible. Il n'a pas conseillé qu'on fasse cela toute notre vie. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Salam wa rahmatullah. La femme ne peut pas faire le tawaf lorsqu'il menstrue. Mais si elle est au contraire, si elle est contrainte de retourner son pays, son mari ne peut pas la toucher, ne peut pas avoir rapport avec elle, c'est bien cela. Oui, cela. Elle ne peut pas se couper les ongles, ne se laver non plus, c'est bien cela quand elle n'est pas retournée au hajj. Je voulais savoir que doit faire là. Non. Donc, pour la première question, c'est cela. Une femme qui n'a pas fait le tawaf, son tawaf l'ifada, celle-là, elle n'a pas terminé son hajj. Elle n'a pas terminé. Donc, qu'est-ce qu'elle peut pas? Elle peut pas être touchée par son mari, elle peut pas enlever ses cheveux, elle peut pas. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Naam. Jusqu'à ce qu'elle retourne au hajj, après 10 ans, ou la 20 ans, ou la 30 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle peut revenir. Ensuite, il est dit un peu trop. Je voulais savoir aussi savoir que doit faire la femme à qui son mari la force de la pénétrer par derrière ou de faire la fellation. Doit-elle demander le divorce? A-t-elle aussi des péchés? Naam, si elle le laisse faire, si elle le laisse faire, surtout anal, si elle le laisse faire, surtout anal, elle a des péchés. Elle a de grands péchés pour le laisser faire. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit demander le divorce. Elle doit, avant de demander le divorce, elle fait comme a dit le Coran, elle doit faire venir des gens de sa famille à elle et des gens de sa famille à lui. Et elle raconte. Ou bien, elle dit à son frère de raconter. Elle raconte. Elle dit voilà, ou bien elle dit au mari de sa soeur, ou là je sais pas, quelqu'un envers lequel elle n'a pas honte. Non. Et elle dit, voilà, mon mari m'oblige et me force à faire, yani, de par derrière, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ou bien lui dire tu refais plus cela, ou bien ils vont la séparer de son mari, ou bien ils vont annuler le mariage. Non, pourquoi? Parce que faire ceci, anal, c'est un grand péché. C'est un grand péché. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa dit, il a employé le mot kafar. Bien sûr, ce n'est pas le kofr akbar, c'est le kofr amali ici, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie le mot kafar, ça veut dire que le péché est grand, et il est grave aussi. Il est grand, il est grave. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui j'arrête ici, il est 1h30 du matin. 1h30 du matin. Inch'Allah ta'ala, le matin je dois me réveiller dans 2h, ou là je dois me réveiller pour le fajr. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, tafadhal, fais ton annonce. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, mercredi, mais plutôt, on se rencontre à 20h chez vous, Inch'Allah ta'ala. À 20h chez vous. Parce que mercredi, il n'y a pas de das. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, mercredi chez vous. Tafadhal, Abdelrahim. Ibrahim, tafadhal. أبو ليس أحبك الذي أحببتني فيه أخت السلفية جزاك الله خيرا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم خيرته إبراهيم تؤدي الشيخ تفضل يا كيف شوز إبراهيم مونجي ولي الميكرو تفضل مونجي ولي الميكرو تفضل أبو طالب شتي ميان فوان روج pour ne pas perdre beaucoup de temps. Enfin, tu parlais yani, dans le vide, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. C'est pour ça que je t'ai enlevé le point rouge, je t'ai mis un point rouge. Hein. Il n'y avait pas de son. Tu veux prendre le micro une deuxième fois, si ça ne marche pas, khlas, c'est bon.
Ma'am, c'est ça? Alhamdulillah. Ma'am, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah jami'an, hayakum Allah ya shaykhana. J'ai deux annonces sur l'affaire. Donc la première, c'est un frère qui dit Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, une soeur recherche un raqi sur Paris. Peux-tu passer l'annonce? Elle est vraiment mal. Donc s'il y a des frères qui connaissent un raqi, inchallah, sur Paris, qui contactent le frère. Le frère s'appelle El Biskri. J'ai posé son pseudo, inchallah. Voilà. Ah, je répète, inchallah, il y a un frère qui cherche un raqi sur Paris, et ce frère s'appelle El Biskri. C'est pour une sœur, Inch'Allah, donc il y en a très besoin. Un raqi, c'est super raqiya. Voilà. Et en ce qui concerne donc, je disais, c'est pour là, je vais vous passer le lien, Inch'Allah, pour télécharger une feuille. Car en France, désormais, il y a une loi qui autorise le prélèvement d'organes sur des personnes qui sont mortes, même sans son consentement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une nouvelle loi qui est apparue il y a quelques années, qui autorise l'État français à prélever un organe d'un corps qui est mort, même sans l'autorisation de sa famille, même sans les prévenir. Pour des Yannick, pour ceux qui sont inscrits sur la liste des receveurs. Et donc pour éviter cela, Inch'Allah, je vais vous faire passer un lien sur lequel vous téléchargerez la feuille que vous devez remplir. Vous la remplirez, Inch'Allah, et vous l'enverrez à Paris. Mais ne pas plus comme essayer de faire ça pour vous, pour vos familles et vos voisinages, Inch'Allah, de façon à ce que ça soit connu. Ça, c'est pas quelque chose qui est que pour les frères et sœurs, c'est pour tout le monde, Inch'Allah. C'est quelque chose de très 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 important. Ou mine pas de l'écho, mais je vais leur mettre le lien, Inch'Allah, et essayer de faire votre nécessaire. Barakallahu fikoum, khayyatoumallah, jami'an.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais ça. Pas du son. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, je vais vous passer, Inch'Allah, le règlement, comme ça vous le mettez dans votre site, Inch'Allah. L'akh, il a retapé le règlement, Inch'Allah, vous allez le mettre dans votre site, Inch'Allah. Vous pouvez vous payer, barakallahu fik. Jazakallahu khair, salam alaikum.